Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour le quatrième service après-vente de la F1 de cette saison. Après le spectacle offert en Malaisie, aussi bien sur la piste qu'en dehors malheureusement, la Formule 1 s'était donné rendez-vous en Chine le week-end dernier après une courte escale à Paris pour le Conseil mondial de la FIA qui a entériné la validité des fameux diffuseurs magiques des Brown Grand Prix Toyota et Williams. Confirmant ainsi la hiérarchie établie en ce début de saison, cette décision annonce pourtant de nouveaux bouleversements à venir une fois les grosses écuries équipées à leur tour de ces diffuseurs. Le Grand Prix de Chine porte-t-il donc déjà les traces de cette évolution du championnat? Et si oui, dans quelles proportions? Quels ont été les principaux faits de course? Quels sont nos drive-thru of the race? Sans oublier notre concours qui marche super fort, le top pas position en fin d'émission. Retrouvons tout de suite, si vous le voulez bien, nos deux intervenants de choc. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonjour.
Bonjour Yann.
Ça va?
À fond.
Ça va.
À fond. Alors, c'est quand il faut activer que là, je peux lui cliquer.
Bien sûr.
Voilà. Fallait que je commence original, on commence original. On fait du polonais, spécial pour Kubica.
D'accord.
Donc, Grand Prix de Chine, ça vous a plu?
Sympa.
Sympa, ouais, sympa. Voilà.
On passe tout de suite aux qualifications?
Oui.
C'est un bon début.
Alors moi, je pensais qu'on pouvait finir avec le podium, et puis en fait, on s'est dit.
On revient pas sur la décision?
Oui, si tu veux, on peut revenir sur la décision.
C'était prévu, hein.
Mais quelle décision?
La légalisation... L'autorisation des alors diffuseurs magiques, double diffuseur, appelle ça comme tu veux.
Ouais. Mais d'ailleurs, je vous conseille un très bon article sur le blog de SAVF1.
Très bon. Dis ça parce qu'il l'a écrit, mais c'est vrai qu'il est non, c'est vrai qu'il est très très bien.
Mais en fait, je cherchais une image de double diffuseur parce que j'avais rien pigé au diffuseur. Voilà, c'était jeudi après la décision et la décision qui a été effectivement
sans surprise hein.
De valider. Ces fameux diffuseurs.
Ce qui fait que certaines équipes ont déjà commencé à installer des diffuseurs avancés, sans parler forcément de double diffuseur.
On a McLaren
qui a McLaren.
Et puis il y a Renault.
Juste Alonso.
Juste Alonso, mais en même temps Piquet, on n'en a pas besoin.
Renault, quoi.
Donc c'est tout, pas de. Personne s'offusque de cette décision.
C'était un peu prévisible quand même.
Ouais, mais faut. Moi, je dis, c'est trop nul. Il faut bien qu'il y en ait un qui s'offusque. Hein. C'est trop nul, c'est pas bien, c'est de l'arnaque. Tout ça contre Ferrari, on cherche à priver les grands de leur puissance.
Ah.
Voilà.
Ouais.
Ça, on dira qu'on s'est un peu offusqué quand même. Non, c'est bien pour la saison parce que, bon, ça entérine le fait que les cartes ont été redistribuées. En même temps, moi, c'est ce que je dis justement dans l'article. Est-ce que c'est dans l'esprit des règles?
Ah, carrément pas.
Non, c'est pas dans l'esprit des règles. Donc voilà, moi je suis assez partagé. Et j'avoue d'ailleurs sur l'ensemble de ce début de saison, hein, au-delà même des diffuseurs, je suis quand même assez perturbé sur le fait que les écuries McLaren, Renault, Ferrari et BMW qui se battent pour le titre depuis 3 ou 4 ans se retrouvent à la masse et que ce soit des petits qui soient devant. C'est rafraîchissant, mais quand même, pour le vrai fan de F1 que je suis, moi je sais pas, moi ça me perturbe.
C'est surtout parce qu'il y a ces différences de pièces, quoi. Il y aurait pas ces problèmes, ça serait formidable. Là, on peut pas s'empêcher de dire quand même qu'ils ont eu un avantage assez limite.
Ouais. Mais la F1 est remplie d'exemples comme ça, quoi.
Ouais.
Je veux dire, je sais pas ce qui me vient à l'esprit, là, c'est après la mort de Senna en 94. En 95, ils ont décidé de protéger la tête du pilote un peu plus dans le cockpit. Et t'avais, par exemple, Ferrari qui avait fait des énormes boudins, là, sur le côté, qui était un truc horrible. C'était vraiment l'esprit du règlement. Et à côté de ça, t'avais Benetton, c'était des trucs vachement plus, ils étaient dans la règle, hein, il n'y avait pas de souci, mais était d'être tout juste à la limite du règlement et pas forcément dans l'esprit de protéger le pilote, etc. Encore mieux, quoi.
Ouais.
Donc à chaque fois on a des choses comme ça, faut pas s'en offusquer, hein. C'est normal, les ingénieurs ils flirtent avec le règlement et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport, quoi.
Et voilà, en plus c'est quand même à la base le règlement il avait été fait entre guillemets pour un petit peu réduire l'influence de tout ce qui était aérodynamique et là on voit. Et pas par n'importe qui, hein. C'est quand même Brown et New Way qui font les deux plus belles voitures cette saison. Et
Et voilà. Qui marche le mieux.
Voilà.
Ouais.
Et Ouais, parce qu'on a, je crois qu'on n'avait pas mis la Red Bull dans notre classement des voitures les plus belles.
Moi, en début de saison, souviens-toi, j'avais dit faites gaffe à la Red Bull.
Bon, on vérifiera les enregistrements.
Nous savons les moyens de te vérifier. Alors,
Sinon, juste aussi d'un point de vue, faut dire que cette semaine, Kers a rimé un peu avec Desch, puisqu'il n'y avait que 3 voitures avec le Kers.
Ah, à un moment donné, il y en a eu 4.
4? Oui, il y en a eu 4.
Ah, mais c'est-à-dire ça c'est.
L'a essayé et l'a enlevé.
C'est une scène, alors je sais pas si vous avez vu les essais, mais c'est une scène magique. Vous avez donc BMW a essayé, parce qu'il fallait bien essayer, le Kers sur la BMW de Kubica. Ils ont mis la voiture, le Kers sur la BMW de Kubica, il a fait un tour, genre un truc mais super foireux, il est rentré, il est sorti de sa voiture, et il s'est mis à rigoler avec les mecs de BMW et tout. Et voilà, moi je trouvais que c'était une très belle scène de voir, c'est quasiment nerveux quoi, il riait quasiment nerveusement de se dire mais pourquoi on a même été l'essayer, parce qu'on savait très bien que ça allait pas marcher.
Les pilotes sont obligés de s'affiner de plus en plus, mais...
Là, dans F1 Racing, il y a justement un article qui parle de la perte de poids, et il y a des photos, la photo de Rosberg, le Rosberg de l'année dernière et celui de cette année, oui. mais il a perdu, enfin, c'est impressionnant.
Et pourtant, Rosberg, c'est pas non plus... C'est pas un camionneur comme son père, quoi.
Voilà.
C'est clair. Mais ça m'a pas choqué, moi, la différence de poids. J'ai feuilleté rapidement, mais... Ouais, ah, c'est peut-être kilos, affiné quoi. Un peu. Ouais.
Bah, sur le long terme, ça se voit pas trop en fait. C'est pas choquant.
Ouais. Ils ont fait la même chose avec la photo d'Alonso et de Kimi. Quand j'ai vu celle de Kimi, moi, ce qui m'a choqué, c'est la casquette.
Voilà.
Oui, non, mais il a un grave problème avec sa casquette cette année.
Oh, s'il y avait qu'avec la casquette. Donc, comme on parle de Kimi et qu'on parle de casquette et qu'on sous-entend plein de trucs sur la casquette de Kimi. Si on passait aux qualifications.
Oui.
Ça, c'est la transition.
Non, juste pour dire que Ferrari a enlevé le Kers.
Ouais.
Et Renault aussi.
Ça leur a pas réussi, à Ferrari.
Ouais. Bon. Alors, les qualifs.
Alors, pole position.
Sébastien de Vettel sur Red Bull Renault en
1:36.184.
Eh oui. Deuxième pole position pour Vettel. Première pole position pour Red Bull. Et 155e pole position pour Renault.
En tant que motoriste.
Voilà. Moyenne, 204 km/h. Deuxième position, Fernando Alonso. Troisième, Marc Weber. Quatrième, Rubens Barrichello. Cinquième, Button. Sixième, Trulli. Septième, Rosberg. Huitième, Raikkonen. Neuvième, Hamilton. Dixième, Buemi. Onzième, Heidfeld. Douzième, Kovalainen. 13e Massa, 14e Nakajima, 15e Bourdais, 16e Piquet, 17e Kubica, 18e Sutil, 19e après avoir été rétrogradé de 5 places, Glock pour changement de boîte, 20e Fisichella. A noter que Kubica et Glock se sont élancés des stands.
Ouais.
Hey, franchement, tu le fais trop bien la grille.
Hey, c'est beau, hein.
Bon, remontons la grille maintenant.
Cette grille, voilà.
Alors, moi j'aurais voulu revenir, tiens, tu disais que Bourdais, il était 15e, enfin 16e dans les temps. Moi je voulais juste revenir sur Bourdais parce que il a pas été à la fête ce week-end parce que Buemi a fait le 10e temps. Il s'est qualifié en Q3 pour son premier, en Q1 pour son premier Grand Prix. Son 3e Grand Prix. Oui.
En Q3.
Ah oui, c'est Q3. Moi, je me perds.
On fait 1, 2, 3. On fait pas 3, 2, 1.
Ouais, mais je sais pas. Moi, ça me semble plus logique de dire Q1 pour la Super Pole. Bah voilà, Super Pole.
Voilà, il s'est qualifié en Super Pole.
C'est vrai que Buemi se qualifie pour la première fois en Super Pole et voilà. Et on a tendance à peut-être un petit peu à descendre Bourdais sur sa qualif. Moi, je l'ai vu aux essais. Bourdais, il a pas été trop mal. Il a fait des bons temps. Je crois même à un moment donné, il doit être 7 ou 8e sur la grille des temps. Donc c'est pas mal. Il s'est planté, ça lui arrive souvent de se planter en qualif. Il s'est planté en qualif.
Ouais.
Voilà, il n'arrête pas de se plaindre. C'est peut-être aussi le truc. Hein. Il n'arrivait pas à régler la STR3.
Il est pénible pour ça. Hein.
Ah ouais, non mais là, ouais. Encore aujourd'hui une interview.
Ça c'est mon vocuté.
J'arrive pas à régler la STR4.
Le problème, ouais, c'est que c'était déjà le cas avec la 3 et c'était déjà le cas avec la 2.
Donc, à un moment donné, faut qu'il positive aussi un petit peu, quoi. C'est sûr, des fois, il a pas de chance. Là, il fait une erreur, bah voilà, ça arrive. Bon, ils disent, voilà, j'ai fait une erreur, qu'il ne cherche pas à dire, j'ai du mal à régler la voiture, alors qu'en plus, il a fait des bons essais. Donc ouais, voilà. À signaler d'ailleurs que, comment s'appelle, Toro Rosso bénéficiait de la mise à jour Red Bull, hein.
Oui.
Ils avaient, voilà, ils avaient toutes les nouveautés Red Bull, enfin, ils avaient grosso modo la Red Bull qu'il y avait en Australie.
Bah, si on reste un peu plus dans le fond, il y a la surprenante quand même 17e place de Kubica. Moi, ça m'a surpris.
Surprenante.
On a quand même celui qui a failli gagner le Grand Prix d'Australie, hein. Je veux dire, lors de la première course, il nous a montré un autre visage, quoi.
Mais le truc, en fait, c'est que moi, je pense que ça a été la bêtise, en fait, de se servir du Kers. Ils ont essayé le Kers. Ça leur a bousillé leurs essais. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont, lui, il a dû retravailler sur les réglages de la voiture avec le Kers. Faut quand même rappeler que le Kers, c'est entre 30 et 40 kilos supplémentaires. C'est des kilos qui sont pas, ça fait pas une différence de poids de la voiture, hein. Mais quand t'as pas le Kers, t'as du lest que tu peux placer comme tu veux. Là, c'est entre guillemets, c'est un poids qui est en plein milieu de la voiture. Et t'es obligé de faire avec. Donc, il a dû adapter sa voiture comme ça. Et après, bah, faut revenir dans les réglages fins. Faut revenir faut qu'il retrouve sa conduite. Faut qu'il retrouve ses marques. Donc, à la limite, la journée du vendredi, lui, elle lui a servi à pas grand chose.
Ok.
Et puis, la BMW, c'est pas non plus, ils ont bien marché en Australie. En Malaisie, on peut pas dire qu'ils ont été super brillants. On a Heidfeld qui a une deuxième place, mais bon, c'est à la faveur des circonstances.
Ouais, voilà.
Et même chez BMW, on commence déjà à se poser la question si on va pas se concentrer sur 2010. Enfin, eux, disons qu'ils disent que la version officielle, c'est on va peut-être pas autant développer la voiture. Par exemple, ils vont changer de diffuseur, mais ils sont pas sûrs de faire un diffuseur à la Braun.
Ouais, moi, c'est un peu bizarre qu'ils fassent ça. Ils ont déjà fait ça l'an dernier. D'arrêter le développement de la voiture alors qu'ils avaient en plus quelque chose à faire peut-être.
Hein. Ouais, mais voilà, c'est ça le truc, c'est que la comparaison par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière ils avaient quelque chose à faire, mais là cette année le truc c'est que c'est un retard entre guillemets technologique qu'ils ont. Ça va être le même dilemme pour toutes les équipes. Hein. On en parlera, je pense, à propos de Ferrari. Ferrari sont déjà en train de dire en Espagne si le nouveau package fonctionne pas. On pensera sans doute à 2010. Je pense que ça les taraude aussi dans leur tête de se dire, bon ben voilà, l'année elle est foutue. C'est vrai qu'entre guillemets, Ferrari a peut-être moins de pression que BMW. BMW c'est un constructeur. Ferrari peut se permettre, entre guillemets, de faire une année blanche.
Oula.
Ah, mais je pense qu'on y reviendra.
Pas la presse italienne.
Ouais, non, mais.
Oui, non, mais voilà, au niveau de la presse, mais disons que au niveau de la marque, voilà, bon, ils font. De toute façon, quoi qu'il arrive, leur saison, et si leur saison est foutue d'ici l'Espagne, que les évolutions, elles apportent rien, ils peuvent très bien se dire, bon, bah voilà, on va se concentrer sur 2010. Eux, ils ont pas de voiture à vendre. Quoi qu'il arrive, c'est pas en fonction des résultats de Formule 1 que les Ferrari se vendent. Alors que BMW, en plus, il y a le pari technologique du Kers, donc ils sont un petit peu obligés d'aller plus loin. Donc ça, je vois quand même mal BMW rendre les armes si tôt.
Ce qui est assez, excusez-moi, je fais encore une grosse aparté là, mais ce qui est assez sidérant quand même, c'est qu'on voit BMW qui a des problèmes potentiels avec le Kers. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé chez BMW, je voulais voir les bagnoles, hein, j'avais aucune idée combien coûtait une BMW. Bon bref, et ouais. ils ont dans les voitures de série un système de récupération d'énergie au freinage.
Ben ouais, mais c'est comme Toyota.
Sur les voitures de série.
Toyota qui sont les pionniers en matière d'hybride et de etc. Là en Formule 1, c'est pourtant le premier constructeur mondial, ils sont incapables de mettre un Kers.
Ouais, c'est hallucinant ça.
Voilà. Le plus impressionnant, c'est ceux qui sont les plus prometteurs du point de vue du Kers, c'est Williams.
Oui.
Ils ont strictement rien de constructeur.
Non, il ne faut que des rasoirs.
Voilà.
Non, je déconne. Ça n'a rien à voir.
Donc oui, ça a coupé de ça, c'est étonnant. Mais bon, sur le week-end, c'est pas une surprise. Puis bon, Heidfeld n'est pas meilleur non plus. Hein.
Heidfeld, il a fait un podium quand même. Alors certes, dans des conditions extraordinaires en Malaisie, mais je veux dire...
En Chine, Heidfeld, il n'est pas énorme. Hein,
Oui, il fait 11e.
Voilà, donc Kubica, en ayant moins bien travaillé, en n'ayant pas passé des essais super sereins, bah il est 6 places derrière. Et puis il faut quand même se rappeler que les écarts en ce moment, les écarts sont très faibles, hein, c'est 2 ou 3
ouais.
dixièmes.
Ah ouais, tout à fait.
On peut, okay. peut-être parler de Massa, non?
Oui.
Bah. Là, juste pour dire que là, pour une fois, c'est pas la faute de Ferrari.
Ah là, non. Enfin, c'est pas la faute de la stratégie.
C'est son vrai niveau. Bah, voilà. C'est plus grave.
Parce qu'il a fait une... Mais ouais. Est-ce que vous avez regardé les essais, vous?
Non.
Non.
Non. Parce que pendant les essais, il y avait un truc qui était quand même incroyable vendredi. C'est que les Ferrari étaient réglées super hautes de l'arrière. C'est pas difficile, hein. Quand vous regardiez la Ferrari passer dans un virage, elle était, vous aviez presque l'impression que le museau allait toucher le bitume, tellement à l'arrière ils étaient hauts.
C'est la première fois qu'ils géraient sans le KERS.
Et en fait, la voiture, enfin, on a vu les pilotes se battre avec la voiture. Enfin, c'était pour ça qu'entre guillemets, 13e c'est une bonne place parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à se dépatouiller de la voiture vendredi. Ils cherchaient de l'appui, enfin, ils en viennent à chercher des solutions, mais n'importe quoi. Comme McLaren pendant l'hiver qui allait nous chercher le fluide vert là pour l'aérodynamique, ils étaient totalement paumés. Là, on a Ferrari qui essaye de trouver de l'appui en montant la voiture à l'arrière. Enfin, c'est des solutions qui sont hallucinantes de la part de grandes équipes qui en plus sont championnes en titre. Et là, pour le coup, Massa, c'est, je dirais pas que c'est son vrai niveau parce qu'il fait une boulette. Donc, je crois qu'en première séance,
ouais, mais bon,
il doit être dans les 10 premiers, donc c'est pas parce qu'il fait quand même mieux en course.
Le pire, c'est que les écarts sont faibles, quoi. Ce que j'ai noté en Q2, entre la 3e et la 15e place, il y avait 7 dixièmes.
Voilà,
ouais, c'est impressionnant.
L'an dernier, on avait déjà 10 pilotes en 1 seconde, là c'est 12 en 7 dixièmes.
Voilà. C'est ouais non, mais c'est ça aussi le truc qui c'est un peu le piquant de la saison quoi, c'est que la moindre erreur se paye cash. On voit avec Bourdais qui fait une erreur en qualif et voilà, il est évacué dès la première phase de qualification alors qu'il a pas fait un mauvais début de week-end. Et on voit Massa qui pareil fait une erreur et puis bah il rentre directement au stand parce qu'il a pas le choix. Inversement, on va revenir sur Vettel qui fait 3 tours de qualif et il en fait que 3 lui et 3 sans faute. Vous voulez revenir sur quelqu'un d'autre là dans la deuxième phase de qualification parmi les éliminés?
Piquet, non.
Oh.
Bon, on passe alors.
Moi, j'avais noté Lewis Hamilton.
Ah bah il est pas éliminé.
C'est non en Q3, mais là.
Enfin voilà, en Q3.
On est en Q3 là. Bah voilà. Avant en PMI quand même.
Ouais.
On en a un peu parlé, mais bon, bel effort.
Bah, il profite aussi du regain de Toro Rosso. Voilà, c'est Toro Rosso est au niveau où était Red Bull en début d'année, c'est-à-dire facilement un top 10. Théoriquement, là, les deux pilotes, faut au moins que chaque Grand Prix, il y en ait un qui se glisse dans le top 10.
Top 10.
Et je pense que Bourdais avait les moyens hein, ce week-end. Malheureusement, voilà, une erreur. Mais c'est vrai que Buemi, étonnant.
Belle preuve.
Oui, voilà. Très beau week-end.
Donc, tu voulais reparler d'Hamilton?
Ouais. Hamilton, c'est surtout pour les McLaren.
Ouais.
Il est classé 9e. Ils avaient le KERS.
Ils avaient le diffuseur pour les essais de la course.
Ouais.
Ça, c'est pas vraiment diffuseur, hein. C'est vraiment un truc retravaillé, mais c'est pas encore le concept abouti.
Et un nouvel aileron avant.
Mais ils ont fait les meilleurs temps vendredi matin. Ils étaient vraiment en forme. Enfin, c'est pas usurpé avant les matins. Ils ont été vraiment devant. C'est pour ça que
peut-être aussi pour montrer que justement ils revenaient.
Sérieusement, je pense pas. Hamilton et Kovalainen n'avaient vraiment pas l'air de... Ils ont fait des relais moyens, ils ont fait des relais un peu plus longs. Voilà, et c'est, ça n'a pas
été... Je pense que c'est peut-être plus les autres équipes qui ont pas, qui n'étaient pas à fond, quoi.
Peut-être, ouais. Peut-être que... Enfin, pas les autres équipes, on va dire prône.
Sinon, en qualif, ils auraient fait mieux. Hein.
Mais c'est ça le truc qui est étonnant, c'est que voilà, en qualif, ça marche pas. Mais il faut dire aussi, en qualif, ils sont lourds. Hein. Ils ont une stratégie, là, ils sont à 20, en gros,
ça va. Kova, il échoue en Q2, donc les voitures sont à vide quand même. Hein. Donc c'est bien qu'il n'était pas au-delà du 12e temps. Quoi.
Ouais, mais c'est Kova.
Et c'est toi qui dis ça.
Oui, je sais, ça me fait mal. Enfin, je sais pas, moi je les ai trouvées un peu plus fringantes, mais décevantes en qualification. Un peu comme. C'est un peu la même sensation que Williams.
Ouais, Williams, c'est un peu pire même. Hein.
Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va y revenir.
Mais bon.
Est-ce qu'on revient sur Kimi?
Non.
Non.
Non, franchement. Non,
par contre, là, pour le coup, Kimi, c'est le vrai niveau de la Ferrari sur les qualifs.
Il était lourd hein, pendant les qualifs. Maintenant, est-ce que plus léger, il aurait fait beaucoup mieux? Je suis pas sûr.
Mais moi, pour le moment, pour le niveau, la Ferrari, c'est voilà, c'est entre la 7e et la 10e place, c'est ce qu'ils font depuis le début de saison. C'est le niveau moyen de la Ferrari. Sans bêtises, ils pourraient facilement marquer des points. Fiabilité, oui. Ils pourraient marquer des points. Parce qu'eux, ils se qualifient, voilà, à 7-8e place, pourraient s'éviter un début de saison ridicule.
Il est à peu près deux derrière Vettel en qualif, sachant qu'il a le double d'essence. Alors après, il faudra calculer ce que ça vaut exactement, mais...
Mais je crois que ici c'était 10 kilos, c'était 4 dixièmes. On passe au Brown ?
Oui, avec pour la première fois Barrichello devant Button.
Et puis la première fois...
Il faut le souligner, quoi.
Pour la première fois, il n'y a pas une Brown en pole position.
Ouais, enfin... Ça aurait pu être pire, quand même.
Ah oui, non, voilà. Ah, mais on est bien d'accord. Hein. C'est comme tous ceux qui, après la course, disent « Oh là là, c'est le début de la fin pour Brown. C'est bon, ils sont troisièmes. Il n'y a pas grand-chose à faire. » Ils n'ont pas eu l'air en forme, les Browns, ce week-end.
Non, ils avaient l'air moins à l'aise, en effet.
Ouais,
surtout, la Red Bull avait l'air très bonne.
Mais apparemment, il semblerait que ce soit lié aux températures. Parce qu'ils auraient peut-être du mal à basse température et plutôt impressionnant à haute température.
Voilà, et ça promet pour dimanche.
Voilà. Ouais. Quoique, à Bahreïn, on n'est pas à l'abri. Il a bien plu il n'y a pas longtemps au Qatar, alors. Hein.
Ouais. C'est déjà pas top Bahreïn, alors si en plus on voit les deux Browns en tête du début à la fin...
Ouais, mais il y aura le Kers et tout, ils vont revenir tous avec le Kers, tu vas voir. On passe à l'une des deux surprises de cette grille, Alonso.
Oui, qui était très léger.
Bah c'est le plus léger.
Très
plus léger.
Il a 8 tours d'essence, donc c'est extrêmement léger. Ça, moi, franchement, ça a été la surprise de la qualif.
Ah oui, c'est sûr, oui.
Parce qu'en plus, on l'a pas vu venir. Hein. Ils avaient beau avoir le nouveau diffuseur là sur la voiture d'Alonso, franchement.
Quel est l'intérêt de faire une qualif avec 8 tours d'essence sans rien? Moi, pour la course, je suis pas persuadé que ça apporte quelque chose quand même. Bon, là, en plus, il a pas eu de bol avec les conditions.
Non, mais c'est vrai.
Mais globalement, de toute façon, enfin, sur ce week-end, on se demande un petit peu l'intérêt de la stratégie chez Renault. Globalement.
Ouais. Non, hein. Mais ils ont pas eu de bol.
Oh non, je suis désolé. Non, sérieusement, là, on en reparlera tout à l'heure sur la course. Là, c'est pas une question de bol. Je suis désolé, mais on a tapé la dernière fois sur Ferrari. On va devoir taper sur Renault à ce moment-là.
À mon avis, voilà, ils avaient 40 litres d'essence pour la course. Piquet, il s'est servi le premier. Il en a pris 32. Et pauvre Alonso, il en avait plus que 8.
Quoi.
Ça que comme ça, quoi.
Non mais je pense que ce qu'ils visaient c'était la pole. Ils avaient déjà fait coup l'année dernière à Barcelone. Et je pense que
c'était à Barcelone. Alors soit il y a derrière une grosse stratégie commerciale parce que le marché est peut-être très important pour nous.
Mais vous...
c'était important de faire.
Mais pour moi c'est tout à fait ça.
Peut-être.
Pour moi c'est ça. C'est on sait très bien là que la victoire de Red Bull elle va être fondamentale pour le marché chinois pour Red Bull parce que c'est une audience supplémentaire et là Alonso en parce qu'il pouvait viser la pole Alonso en pole ça en, alors en plus tout le monde en aurait parlé à travers le monde parce que c'est voilà, c'est Alonso en pole.
Ouais. Et bien je vais revenir sur je suis en train de regarder rapidement si je trouve l'info. En fait, ça me rappelle la saison de Leighton House je pense que c'est en 90, je vais vérifier ça tout de suite.
La saison de Leighton House en 1990 se déroulait.
Non, mais trêve de plaisanterie. Mais donc Leighton House, c'est aussi, elle a changé 30 fois non cette écurie. Mais notamment, il y a eu une course. Alors, je vais te dire ça. C'est au Japon. Je pense que c'est 90 alors, où ils avaient en fait, à l'époque on n'avait pas le droit de ravitailler en course.
Ouais.
Et donc c'était au Japon et Leighton House c'était un des sponsors importants pour eux. Et en fait ils avaient mis que la moitié de l'essence dans la voiture, histoire de bien figurer, mais sachant qu'en milieu de course, de toute manière, ils auraient pu... Ils seraient obligés d'abandonner. Je pense que c'était en 90, soit Gould Jelmin, soit Ivan Capelli. Bon, bien sûr, dans les stats, on voit pas le coût de l'essence. Mais,
ah bah non.
Non.
Mais voilà, c'est en tout cas ce qui s'était dit, quoi. Ah, c'était un temps que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
C'est vrai. Ah, qu'est-ce que je suis jeune. on finit Allez, par Red Bull.
Oui.
Comme l'a dit Shinji, première pole de Red Bull. Premier partenaire de Renault à signer une pole avec le moteur Renault depuis 97, c'est
non.
ça ? Bah oui.
Non.
Bah Benetton.
Bah depuis 97.
Ah, depuis 97,
ah,
pardon.
D'accord, excuse-moi.
Ah, wow.
Benetton, je me demande si Ligier n'a pas signé les pôles au siècle. Ah, peut-être pas, non.
Ouais, peut-être, ouais,
ah, puis oui, je suis bête, je dis Benetton, mais oui. Bah oui, Williams.
Ah, Williams, bien sûr.
Vous cherchez des trucs compliqués alors que quand même. Je comprends pas, il y a un moment donné.
Non, mais mais à l'époque ils étaient que motoristes, c'est différent.
Ouais, voilà.
Benetton, ils avaient. Bah non, ils étaient motoristes aussi.
Non, mais si tu veux, j'aurais dû me souvenir de Williams en premier, quoi, parce que.
Merci Seigneur, voilà. Merci.
On est la génération qui a découvert la F1 avec Williams Renault.
Ah, et puis il y avait Lotus aussi qui avait le moteur Renault.
C'est vrai.
Moi je sais pas, moi j'ai découvert la F1 à l'époque où les Williams elles étaient rouges et LED.
Oh, ouais. 97 avec voilà. Ralf Schumacher et
je dirais 98
pardon. Vous avez fait un contrat à Ralf Schumacher parce que il pensait qu'il était pas très bon. Déjà ils étaient visionnaires à l'époque. mais pour le coup il s'était bien planté puisque je crois qu'il avait un contrat. Il fallait au moins qu'il marque 40% des points que faisait Zanardi qui avait été titré en chambre car. Et Zanardi a marqué 0 points et Ralf, je sais plus combien, quoi.
Donc, sur Red Bull.
Bon, je vous fais chier avec mes anecdotes.
Ah non, mais si vous voulez qu'on fasse pas une émission de 3h30, faut qu'on avance sur Red Bull. Donc, Red Bull.
Bah, on connaît tout le talent de Vettel.
Non, mais, sérieusement, là, le talent de Vettel, enfin...
On connaît tout le talent d'Adrian Newey.
Voilà. On mais sait que Renault sait faire de bons moteurs.
Ouais. C'était moins vrai ces derniers temps, quand même. Hein.
Ouais, bon, d'accord.
Bah, depuis qu'ils ont eu l'autorisation des équipes cet hiver de rajouter, je crois, ces 50 chevaux, parce que...
Ils étaient là, oui.
Eux, ils n'avaient pas compris, parce que, oui, on peut pas être à la limite du règlement. C'est quand même deux fois. Hein. Les diffuseurs plus les moteurs, ça fait beaucoup chez Renault.
Ouais.
Et les mecs ont l'impression qu'ils n'ont pas compris ce que c'était la Formule 1. On vient en Formule 1, mais nous, on suit le règlement à fond. Mais non, il faut flirter avec.
Ça fait plaisir.
Hormis Alonso, quand même, c'est aussi les deux pilotes qui ont le moins d'essence, quoi.
Ouais, mais ils ont moins d'essence, mais quand même, enfin, ils font quand même les deux meilleurs temps et puis ils claquent tout le monde dans la Q2. Je pense que chez eux, c'était vraiment leur stratégie, c'était d'avoir une voiture légère pour vite s'envoler en avant du peloton et puis compenser le ravitaillement en plus ou le ravitaillement plus long, le compenser sur le début de course qui serait où ils iraient devant et puis plus personne les verrait. Voilà.
Il, quand même, pour revenir rapidement sur l'équipe Red Bull, il paraît que Weber prend les réglages de Vettel. J'ai lu ça, je sais plus sur quel site, récemment. Et au début, il ne voulait pas le faire, mais c'est quand même un signe, quoi.
Ça lui réussit bien.
Weber, 8 ou 10 saisons derrière lui, quand même, hein. L'air de rien. Vettel, deuxième saison complète. C'est assez surprenant, quoi.
Mais moi franchement, moi ce qui m'a impressionné, moi je trouve qu'on en a encore parlé ce week-end en disant Baby Schumi, en disant Lafitte qui arrêtait pas de dire regardez-moi cette tête de gamin. Moi je suis désolé, j'ai trouvé sur le podium, il avait la tête d'un homme, d'un pilote mature, sur la piste, faire ce qu'il fait, il fait trois fois il sort en qualif parce qu'ils ont un pépin technique depuis le début du week-end. Et qu'ils veulent pas trop solliciter la voiture parce que je crois qu'il y a un problème d'huile dans les freins, etc.
Ouais.
Donc à chaque fois, il sort, il fait un tour et le gamin, il sort, il te fait le tour parfait. Il y a pas une faute, il y a rien. J'avais mis sur le blog la vidéo du tour embarqué de sa qualification. Le tour, il est quasiment parfait, quoi. Donc voilà, c'est là où on peut rappeler Schumacher. T'as fait un article sur ton site. Là où on peut rappeler Schumacher, c'est dans cette capacité à sortir, à faire le tour qu'il faut et à rentrer.
Ouais.
Et un mec qui est capable de faire ça, il va avoir des propositions d'ici la fin de l'année qui vont être plutôt agréables.
Bah franchement, moi je comprends pas qu'elles soient pas arrivées plus tôt les propositions. Hein.
Il y a Red Bull.
C'est vrai.
Il y a Red Bull qui bloque.
Oui, mais Red Bull justement.
Non mais Red Bull ils ont été fermes. Red Bull ils ont de toute façon ils ont dit que ils avaient le pilote c'était eux. Ils ont raison hein. C'était eux qui l'avaient fait venir donc ils voulaient le garder. et ils sont confiants à leur potentiel, ils ont Adrian Newey, donc ils ont tout fait pour le garder. Et je pense que la décision sage de Vettel, ça a été de le garder. Et en plus, en ce moment, niveau baquet, il n'y a pas grand-chose de disponible pour Vettel non plus.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Chez Ferrari, il y a Raikkonen et Massa, il y aura sans doute une place qui va se libérer d'ici un ou deux ans. Mais vous avez vu comment je prends mes précautions. chez McLaren, ça sert à rien. Je pense qu'il a même pas envie d'y aller parce que voilà, ça sert à rien. Chez Renault, c'est pas non plus forcément le bon moment.
Ouais.
Il y a peut-être des chances. Hein, si Alonso va chez Ferrari, il y a peut-être des chances qu'on voie débarquer Vettel chez Renault.
Peut-être. En tout cas, quand on fait la comparaison par rapport à Schumi, hein, c'est vachement impressionnant, quoi. C'est marrant, quoi. Ils ont vraiment une trajectoire. Une course, leur première course chez une écurie, aussitôt après, ils sont allés dans une autre. Première victoire, première saison complète.
Ça a l'air d'être encore plus fort, quoi.
C'est ce que je...
Je dis qu'il est si jeune. Tu te rends compte?
Ouais.
En 2020, il y a des chances qu'il soit encore.
Attends, 2020, ce n'est que dans 11 ans, hein.
En 2025, il y a des chances qu'il y soit encore.
Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est agréable chez lui, ce qui est bien, c'est comme ça, on évitera d'en parler à la fin de Vettel. ce qui est agréable chez lui, c'est que c'est franchement, ça, c'est un mec qui est super agréable en interview, qui est très second degré. On va comparer, entre guillemets, à génie, hein. Voilà, on a un autre génie, c'est Lewis Hamilton. J'en avais parlé la semaine dernière.
Tu parlais de moi.
Non. Toi, je te mets à côté de moi sur le même rang, derrière Hamilton et derrière.
D'accord.
Enfin, t'es quand même un dixième derrière moi, mais t'es pas loin. C'est juste une question de moteur. à comparaison, moi je trouve que Hamilton n'est pas intéressant à l'extérieur parce qu'il est, voilà, il est trop lisse, il est trop gentil garçon, alors que Vettel, il a ce côté, assez cool, assez détente. Et l'année dernière, il nous a traîné son bonnet qui était horrible, mais il en avait rien à foutre. Donc c'est en plus, il fait des petites vannes aux journalistes. Un journaliste qui pose une question, je sais plus ce qu'il a dit ce week-end, qui pose une question, il répond du tac au tac. Là, on a eu un incident de course avec Buemi. C'est quasiment lui qui endosse la faute. En s'excusant en conférence de presse, il vient de gagner. Il s'excuse auprès de Buemi parce que voilà, il fait ça, c'est de ma faute. Voilà, donc grand bonhomme quoi. Moi, je dis grand bonhomme.
Je vais vous dire un truc. On est le 21 avril. La saison se termine le 1er novembre. Mais je vais vous le dire. C'est lui le champion du monde 2009.
Ah bon, toi direct, tu y vas comme ça, toi.
Ouais. Et on en reparlera dans je sais pas, 17e émission du SAV, 18e, puisqu'il y a
18e. Eu la pré-saison.
Et bien, je te le dis, et tu sauras me le redire. Je te dis que c'est lui le champion du monde cette année.
Pour moi, il va se battre jusqu'à la fin, ouais.
Moi aussi, je pense.
Moi, j'ai encore un petit peu des doutes quant à l'évolution de la Red Bull. Ils étaient bons l'année dernière, et puis ça s'est cassé la gueule en plein milieu de saison.
Écoute, il y a trois blocs actuellement. Il y a ceux qui ont le double diffuseur, c'est Williams, c'est Brown, c'est Toyota. Ça, ils ont de l'avance actuellement. T'as un bloc derrière, du moins t'as quatre blocs. T'as un bloc derrière où t'as les top teams des années passées qui n'ont pas encore le diffuseur. Ils vont travailler, ils vont le construire. C'est Renault, c'est McLaren, c'est Ferrari et c'est BMW. T'as un bloc, je dirais, c'est les incasables. T'as Toro Rosso, t'as Force India, etc. Où eux, bon, ils vont avoir plus de mal et c'est historique, on va dire. Et puis t'as quand même ce bloc qui est composé à lui de Red Bull, où t'as une voiture performante alors qu'il n'y a pas encore le diffuseur. Donc pour moi, c'est eux qui ont la marge de progression la plus phénoménale, quoi.
Cette voiture, je le dis souvent, elle est pure.
C'est justement ça le problème, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est taillée pour le règlement 2009 tel qu'il devait être à l'origine. Le problème, c'est que là, Newey va devoir, pour pouvoir vraiment concurrencer, parce que même si la voiture est très performante et qu'elle concurrence les autres, ils vont quand même être obligés de se mettre au double diffuseur ou de trouver une solution qui compense un petit peu ce double diffuseur. Et malheureusement, comme c'est sans doute la voiture qui est la plus aboutie, qui va à l'extrême, Newey est vraiment dans l'obligation quasiment de revoir toute sa copie.
Ouais, mais ils ont encore deux autres avantages. Le premier, tu l'as. Newey, c'est quand même pas n'importe qui, il a fait les Williams et les McLaren qui savent gagner. Le deuxième avantage, qui cette année à mon avis va être super important, c'est que eux, ils vont faire des essais avec quatre voitures.
Eh ouais.
Parce qu'ils ont la Toro Rosso. Et pour mettre au point et pour faire évoluer, je pense que ça va les aider.
Eh ben moi je vais te dire, je vais te donner un argument, un contre-argument pour chacun de tes arguments. New Way, il était ingénieur l'année dernière chez Red Bull. Il fait une bonne voiture dans l'ensemble, une bonne voiture, sauf qu'en courte saison, la Red Bull se casse la gueule. Ils font des belles voitures, c'est vrai que la Red Bull, depuis que New Way est là, la Red Bull ne cesse de progresser. Après, c'est quant à la marge de progression. Est-ce que vraiment l'équipe a la capacité de réagir? L'année dernière, il faut quand même se rappeler.
Est-ce que l'on a pas fait comme Bruno? À savoir, délaisser en fin de saison, quand même, le développement de la voiture 2008 pour se concentrer sur 2009, sachant les profondes modifications qu'il y aura au niveau de l'aérodynamique et du règlement 2009. À mon avis, ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas développé jusqu'au bout comme Ferrari. Et... L'an dernier, ils souffraient aussi du moteur Renault, hein, faut le dire. Hein,
c'est vrai.
Par rapport à la comparaison du Toro Rosso, hein, de la Toro Rosso, oui, le moteur Ferrari était nettement meilleur que le Renault. Hein.
C'est vrai.
Donc moi, c'est pour ça. Franchement, je mets, moi, il m'a épaté pendant la course parce qu'il a fait. Bah, il n'a pas fait de faute. Voilà, c'est le seul qui n'a pas fait de faute. Ou un des seuls. Et franchement, je le mets franchement dans mes favoris. Hein.
Non, puis c'est pareil, il faut quand même rappeler, c'est qu'il est, entre guillemets, deuxième à Melbourne, sans une bévue attribuable aux deux pilotes. Il est minimum troisième, donc il a 6 points à Melbourne. En Australie, il est injustement pénalisé de 10 places. Il part normalement troisième sur la grille. Il peut sans doute jouer le podium et même en fin de course, il est encore dans les points, il peut jouer le podium, sauf que voilà, la pluie arrive et il sort. Théoriquement, aujourd'hui, Vettel, c'est le deuxième du championnat, c'est pas Barrichello le deuxième, c'est Vettel le deuxième.
Oui.
Bon, Dominique Allé, si tu nous entends.
On veut soit Alonso, soit Vettel. J'ai une petite préférence pour Vettel, mais
moi aussi.
Mais en moi plus, aussi.
Il est plus jeune. Moi, il est plus jeune, il restera plus longtemps.
Mais en plus, ce qui est bien chez Vettel, c'est que on sent déjà à 20 ans la capacité pour ce pilote à bâtir une équipe autour de lui. T'as des pilotes comme ça. On parlait de Kimi Raikkonen. T'as des pilotes comme ça qui sont des super bons pilotes, très rapides. Mais niveau bâtir une équipe, c'est zéro. Même Massa, qui pourtant a un bon feeling avec l'équipe. Je le vois mal prendre l'équipe à bras le corps et dire voilà, on fait ça, mettre la pression. Un mec comme Alonso, il sait le faire. Je crois qu'aujourd'hui, en Formule 1, Alonso, c'est un peu le seul bonhomme qui peut venir dans une équipe, dire ce qu'il faut faire, un peu comme ce qu'a fait Schumacher chez Ferrari quand il est arrivé en 96. Et là, je pense que Vettel, à 20 ans, il a déjà cette maturité pour débarquer dans une équipe et dire voilà, je vais venir avec vous, on va construire. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas mal que Ferrari se casse la gueule cette saison.
21 ans pour info, c'est 21 ans.
Ouais, 21 ans, ouais, mais
bon, puisqu'on est sur Vettel, j'ai fait des petites.
Du moins,
j'ai fait une petite recherche parce que je voulais savoir. Et donc, toujours avec nos amis de Stat F1 qu'on ne remerciera jamais assez, je voulais savoir si vous saviez quel était le point commun entre. Excusez du peu. Sébastien Vettel avec deux victoires. Un gars que je connaissais pas du tout, mais peut-être les plus anciens parmi vous le connaissent. Dan Gurney, 4 victoires. Stirling Moss.
Alors, je t'arrête victoires. Tout de suite.
Ouais, tu le sais déjà?
Je le sais déjà et ça fait partie des chiffres du week-end.
Eh ben, réponse tout à l'heure dans les chiffres.
Voilà.
Non, réponse tout de suite.
Est-ce que tu le sais, toi, Yann?
Alors, attends, je vais lire.
Normalement, il le sait, parce que je lui ai parlé, justement. C'est tellement...
Non, c'est parce énorme, que c'est, alors... c'est le... Avec tous ces pilotes-là, c'est l'un des seuls pilotes qui a offert une première victoire à une équipe et une première victoire à une autre équipe. Shinji avait toute une liste de chiffres sur le nombre total de victoires que ça représentait.
Fangio a fait gagner la première victoire à Maserati en 53, puis l'année suivante la première de Mercedes, Moss la première de Van Wall en 57, l'année suivante la première de Cooper et enfin la première de Lotus en 60, Gurney la première de Porsche en 62, de Brabham en 64. Et puis après de sa propre écurie, à savoir Eagle en 67, et enfin Stewart gagné la première victoire en Matra en 68, la première de March en 70 et la première de Tyrell en 71.
Ça fait 40 ans quand même.
Alors j'ai noté, alors, hein, ça, à E5, ça fait quand même 13 équipes sur les 34 qui ont déjà gagné une victoire en F1. Ça fait 38%. C'est-à-dire une équipe sur 3 a ouvert son compteur
grâce
avec
à ces
5 pilotes. Et en, pour les championnats, hein, c'est 8 titres, 8 secondes places au championnat, et c'est 73, parce que 71 plus 2 victoires de Vettel, c'est 73 victoires sur 800. Donc un peu moins de 10%.
Ouais, c'est quand même...
C'est, voilà, c'est...
Mais je dirais que... À la fois, je nuancerai un petit peu en disant que on parle de deux équipes, mais c'est quand même on parle quand même de Toro Rosso et Red Bull. Donc les changements,
ouais,
c'est un peu grosso modo la même équipe, sauf c'est un statut particulier de ces deux équipes.
Non, tu peux pas dire ça.
Oh, c'est la même voiture à la base. Enfin, c'est pas la même voiture.
C'est la même voiture. Et... Il y en a une qui est autrichienne. Et encore, du moins j'en sais rien, ils sont basés en Angleterre et l'autre c'est italienne, c'est pas la même mentalité, c'est les anciens gars de Minardi, tu peux pas dire que c'est la même équipe.
Oui, non, c'est la même équipe au sens où les deux châssis à chaque fois, les deux châssis sont faits par le même mec, par la même entreprise, c'est Red Bull Engineering, c'est le même châssis, c'est la même philosophie dans les mecs qui conçoivent les châssis, c'est des méthodes de quand il arrive chez Red Bull... Entre guillemets, pour ça que je dis je nuance, parce qu'il faut pas non plus porter tout de suite au pinacle, et après je vais plutôt mettre quelque chose à sa faveur. Mais c'est quand même, entre guillemets, il rentre quand même dans une équipe qui connaît les équipes Red Bull et les équipes Toro Rosso, même si c'est deux équipes différentes, font pas mal de trucs ensemble. Il est quand même dans la filière Red Bull depuis des années. Donc voilà, c'est ce que je nuancerai. Là où c'est assez fort, c'est qu'il faut quand même se rappeler, c'est qu'à l'époque, dont on parle, donc les années 50, les années 60 et début des années 70, il y a énormément de création d'équipes et de discussion d'équipes. Donc, entre guillemets, c'est plus simple de faire gagner une nouvelle équipe, puisqu'il y en a plein qui apparaissent. Là, c'est quand même le premier mec depuis 40 ans qui fait gagner pour la première fois deux équipes. C'est, voilà, là par contre, c'est apporté à son crédit. Donc, je suis à la fois nuancé, enfin, voilà, c'est.
En fait, quand je cherchais ces chiffres, je m'attendais également à trouver Jenson Button. Je pensais qu'il avait gagné avec Honda, mais c'était déjà Honda et c'était la troisième victoire de Honda.
Ah oui.
Ouais.
Et le plus drôle, c'est que dans la liste, à part Fangio, non seulement ils l'ont fait deux fois, mais ils l'ont fait trois fois.
Ouais.
Ouais.
Alors attends, qu'est-ce qui reste comme équipe qui n'a pas gagné? Bon, Ferrari, c'est fait, ils ont gagné.
Tu sais qu'il n'y en a pas plus beaucoup? Parce que ça fait sur les 10 équipes qui sont...
Bah ouais, il y a Force India, il y a Toyota.
Et Toyota.
Voilà.
Franchement, en pourcentage, je suis pas sûr qu'on ait souvent eu un plateau où 80%, bon, c'est vrai qu'il y a moins d'équipes qu'avant,
on
80%
a, voilà,
des équipes ont déjà gagné une victoire.
On a un plateau un peu chiche quand même.
Ouais, c'est pour ça, tu vois, je pondère.
Donc, on passe à la course.
Oui.
On va essayer de faire.
Mais c'était long, mais c'était très intéressant.
Ouais, voilà. Enfin. Ce n'est pas à nous d'en juger.
Si,
je nous ai trouvé bon, moi.
Des mecs vachement présomptueux. C'était bon. On arrête là, ça y est, on a marre.
Donc la course.
Sur la course, on va pas s'étendre parce que même moi, j'ai pas noté énormément de choses. Enfin, c'est une course assez classique sur la pluie.
Ouais.
Beaucoup de tête à queue.
Déjà, moi.
On va peut-être s'arrêter sur le départ.
Pas le départ, les combien de tours sous safety car?
7.
7.
8, parce que Alonso s'arrête au 7ème tour et les safety cars rentrent au deuxième tour d'après.
Bah voilà. C'est... Bon. Pourquoi?
À chaque fois, on se pose la question pourquoi.
Surtout, pourquoi c'est pourquoi alors qu'à la radio, tu as Vettel qui dit il y a des flaques, l'adhérence n'est pas forcément super nickel, mais on a connu pire. Et t'as Alonso derrière qui dit non, l'adhérence allait bien, les pneus sont bien, tout le monde a les mêmes pneus, je crois que tout le monde a mis les extrêmes. Donc oui, l'adhérence c'est bien. Donc pourquoi à ce moment-là on n'écoute pas les pneus?
Non, mais tu m'étonnes, Alonso il allait pas dire non, attendez encore un peu que je fasse trois arrêts.
Ah bah, il espérait. Hein.
Depuis le début de la saison, je trouve que la direction de course se chie dessus.
Ouais. Ah oui, vraiment.
Ils nous font des décisions de merde. des pénalités à Vettel pour son accrochage en Australie. Donc, il m'énerve.
J'en déduis que dans ton drive-thru, je vais garder plutôt la deuxième solution. Puisqu'on part de la FIA, autant garder le deuxième.
Voilà.
Non. Suspense, qui est le deuxième. Moi, je pense que la FIA, ils ont voulu, ils essayent de trop jouer la sécurité. Ils essayent de se donner une fausse image. Sauf que voilà, au bout de 5 tours, les pneus, je voyais dans l'émission autocritique sur Eurosport, on avait des chiffres. Les pneus, quand ils sont sur la grille, quand ils sont chauffés, ils sont à 70 degrés. Au bout de 5 tours, ils sont à 30 degrés. À 30 degrés, ils sont froids.
Ah ouais.
Donc, au bout de 5 tours, les pneus, ils sont froids. Il faut quand même se rappeler, je l'ai noté, si je me trompe pas, au Japon en 2007, même scénario, on part sous safety car et ça dure pendant 3 plombes. En partie grâce à Hamilton, qui avait pas mal filouté sur ce coup-là aussi, en disant « oui, on pas maintenant, pas ce tour-là ». Et si je me trompe pas, Alonso était sorti grosso modo juste après la safety car, qu'elle se soit retirée. Il sort pourquoi ? Parce qu'il a les pneus froids. Et là, on refait pareil.
Ouais.
Donc, moi, franchement, au niveau plus, c'est soit on se dit « bon, on va décaler le départ de 10 minutes ». Ils l'ont déjà fait, ça aurait gêné personne. Voilà, on est à une course à 9h au niveau, il n'y a pas d'autre programme derrière à part téléfoot. Donc, voilà. ils peuvent très bien dire, on va décaler de 10 minutes. On voit
comment. Ouais, mais c'est les télés.
On voit comment évolue la pluie. Voilà, si ça reste la même pluie, donc on peut se dire, ça va pas s'aggraver, donc on peut faire partir les voitures. Ou alors, on fait directement un départ, on fait un tour sous safety car. Et puis, on fait un départ lancé. Je vois pas en quoi c'était dangereux, un départ lancé. C'est quand même des garçons qui sont intelligents, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, à se mettre à se dépasser, à se coller au cul, etc.
Ce qui est dangereux justement sous la pluie, c'est ce qu'ils veulent pas revivre, je pense, c'est un départ comme il y a pu avoir un Spa il y a quelques années où il y a 15 voitures sur le tapis, mais ça c'était un départ arrêté.
Voilà. Donc,
qu'on fasse pas un départ arrêté quand il y a des trompes d'eau comme ça, ok, mais une fois que les voitures sont lancées, le risque il est minime. Quoi.
Voilà, on fait un départ lancé.
Exactement.
Surtout que, grosso modo, c'est ce qu'on a eu le droit au bout de 8 tours. Au bout de 8 tours, on a un départ lancé.
Ouais, oui, tout à fait. Moi, ce que... Ouais, puis, dis-moi, ça ruine la course d'Alonso, quand même. Hein.
Non, c'est pas ça. Non, sérieusement, c'est pas ça qui ruine la course d'Alonso.
Si, quand même.
Ah. C'est juste que, chez Renault, ils ont été stupides de croire qu'il y aurait 15 tours de safety car.
On est bien d'accord. C'est vrai que, d'un certain
point de vue... Parce que...
Non, c'est vrai que d'un certain point de vue, ça ruine la course d'Alonso.
Imagine, il y a quatre tours de safety car en plus.
Bah, ça change rien, les derniers.
Bah non. Ça coupe. Il y a safety car.
Oui.
Donc il revient à sa place, non?
Mais que nenni, bien sûr que non.
Il revient à la fin.
Mais bien sûr.
C'est ce qui s'est passé.
Il s'est arrêté au stand, il reste au fond, c'est tout.
Mais alors, dans ce cas, je suis bien d'accord avec Yannick, c'était con.
Mais c'est ça le problème. Alors, on va pas non plus taper sur Renault parce que Williams a fait la même stratégie. Mais dans les statistiques de F1 Action, je crois que Alonso il avait 9 ou 10 tours d'essence.
8.
8. Ah oui, effectivement, c'était short.
C'est ça, il était obligé.
Alors, on est quand même sous la pluie.
Non, mais peu importe qui est 8 ou 10 tours, 12 tours, ça flingue sa course. Et je veux dire, ils auraient fait 3 tours de plus, ils auraient flingué celle de
Vettel. On est bien d'accord que ça flingue sa course. On part du principe, il a 8 tours. Il a 8 tours prévus pour le sec. On est sous la pluie. Donc,
sous la pluie,
il peut facilement espérer faire 10-11 tours.
Justement,
pourquoi est-ce que Renault va se lancer dans l'idée de le faire rentrer? Et c'est pareil pour Williams. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils font rentrer leur pilote pour faire des ravitaillements, mettre des nouveaux pneus, etc. Pourquoi est-ce qu'ils les font rentrer alors qu'ils savent très bien que derrière, si la voiture repart, ils vont être derniers. Là, Alonso, il a, je crois que c'est 37 secondes, au tour 11, il a 37 secondes de retard. Avec son essence, en économisant sous la pluie, on économise de l'essence, il ravitaillait au 11e tour. C'était quoi qu'il arrive, quitte à tenter de rentrer sous safety car, fallait rentrer le plus tard possible. Là, il rentre au 7e tour, alors qu'il pouvait espérer rentrer au 11e tour. Il se donne même pas la chance de voir la safety car sortir avant. Et respect, la safety car sort juste derrière.
Je voudrais juste interrompre un peu, parce que dimanche, j'ai regardé la télé sur un écran de 30 cm, mais après j'étais en voiture, et sur RMC Info, par intermittence, j'écoutais ce qu'ils disaient sur la F1. Et à un moment, justement, ils avaient Denis Chevrier, donc qui est ingénieur motoriste chez Renault, et ils ont demandé combien il gagnait justement dans ces conditions, sous safety car et sous la pluie. Et en fait, il expliquait qu'on disait qu'il consommait rien, et c'était totalement faux en fait. Parce que quand tu roules sous safety car et sous la pluie, et en plus sous la pluie, je veux dire, t'es dans des sous-régimes et t'es justement un rendement de moteur pas du tout efficace. Le gain en carburant, ça excède pas les 10%.
Et tu me rappelles chez qui il travaille, Chevrier ?
Chez Renault.
Ok. La somme suffit juste.
Non. Non, mais c'est tout. Non, il a été honnête parce qu'à un moment il a dit oui, il parlait des écuries, ils ont dit oui, c'est bien, eux ils ont deux pilotes sur lesquels on peut compter, etc.
Oui, non, sérieusement. Non, Renault, ça fait quasiment Renault.
Pas la lampe de bois.
Non, mais Renault, il voue un culte pour Alonso, comme chez Ferrari, on vouait un culte pour Schumacher. La différence, c'est que chez Ferrari, entre guillemets, on avait la classe de reconnaître un rôle de numéro 2. Là, ça fait quand même des années que le numéro 2 qui est derrière Alonso, ils le descendent. Fisichella, il faisait exactement pareil. Il disait, de toute façon, nous, on n'a qu'un pilote. Fisichella, il est
les résultats n'étaient pas les mêmes. Hein.
Et là, Piquet, c'est pareil. Piquet, ils disent encore, à un moment donné, faut aussi qu'ils arrêtent, quoi. Ils disent.
Non, mais c'était pas l'objet du truc, mais du moins, c'est pas un brillator non plus. Je pense que l'ingénieur motoriste, là, s'il dit qu'effectivement, tu consommes guère moins quand t'es moi je le crois.
Mais on va comparer un exemple. On est bien d'accord, Vettel et Weber, ils ont le même moteur. On est bien d'accord.
Ouais.
Au niveau des estimations d'essence, ils étaient je crois à 10 ou 11 tours. Vettel s'arrête au 14e tour.
Ouais.
Au 15e tour, tu vois. Donc il fait 5 tours de plus que ce qui était prévu.
Non, 4.
4, ouais, on va dire 4. Bon, ça reste toujours 4 tours de plus. Donc Alonso, il a 8 tours de plein de prévus, d'estimés. 8 tours plus 4, ça fait 12. Pourquoi est-ce qu'ils le font rentrer au 7e ?
Ah non, pas 8.
Moi, je dis pas.
C'est proportionnel. Non,
je dis pas que la faute, elle est de.
Il faut pas faire plus 4.
De quoi ?
Oui.
Bah, grosso modo, on va pas non plus dire que c'est. Allez, 3 tours. Si tu ne veux pas faire proportionnel, on va dire 3 tours. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont autant anticipé le truc. Ils ont un pilote qui est deuxième. Ils ont l'occasion de se dire, voilà, on est deuxième. Quoi qu'il arrive, on est deuxième. En prenant la décision de le faire entrer sous safety car, ils ont la certitude que quoi qu'il arrive, à moins d'un tour de magie, ils sont en train de ruiner la course de leur pilote. Donc, la course de leur pilote, autant se dire, eh ben, on va attendre qu'on soit vraiment à la fin du réservoir. On va attendre le 10e tour. Et puis, on ravitaille au 10e tour. Et au 10e tour, on n'aura pas d'excuses. Là, je suis désolé, ils ravitaillent même un tour avant les prédictions. Il leur reste un tour d'essence. Dans ce cas-là, au lieu de s'arrêter au 7e, qu'ils s'arrêtent au 8e. Mais ça fait un tour de plus.
Ça serait encore pire s'ils s'arrêtent après. Après, il n'est plus dans le peloton qui est collé, quoi.
Oui, mais ça change rien.
Bah, pour moi, si, je pense.
Mais non, mais par rapport à la stratégie, ça change rien.
Bah, je pense que si.
Là, les voitures, elles sont encore proches. Mais non.
Elles sont toutes groupées, tandis que les autres, elles sont vachement espacées. Oui. En repartant dernier, il peut espérer un bon restart et griller plusieurs voitures au départ.
Oui, mais là, si on prend les circonstances de course, ils se disent, voilà, bon, on va pas ravitailler tout de suite parce que on est quand même dans un climat où on attend que la voiture sécurité rentre. On n'est pas dans un climat où on se dit, bon, ça va durer encore 10 tours. On se dit, ça va durer un tour ou deux. En un tour ou deux, tu as peut-être le temps de toi, il est deuxième, hein, donc il a une meilleure visibilité, il a peut-être le temps de gagner, je ne sais pas, 3, 4, 5 secondes sur ses poursuivants, et de se dire, voilà, je vais rentrer au stand, je ne vais pas finir 22e, je vais me retrouver 18e, 17e, 16e. Ça fait moins de voitures à doubler. Donc je suis d'accord avec toi, la faute, elle n'est pas imputable qu'à Renault. Mais moi, je comprends pas l'équipe qu'ils fassent rentrer Renault si tôt. Ou alors qu'ils le disent, c'était un pari, on a parié un truc, on a parié que la safety car elle allait rester 20 tours et que tout le monde allait se faire avoir et que nous, en fait, on avait ravitaillé. Mais qu'ils assument aussi le fait derrière que, en faisant ravitailler Alonso si tôt, ça a surpris tout le monde qu'il le fasse ravitailler si tôt. En faisant ravitailler Alonso si tôt, il lui ruine sa course.
Soit.
Donc, on a fait le cours d'Alonso, je pense.
Là, oui.
Oui, là, oui.
Mais c'est surtout, ça m'énerve pour Alonso parce que franchement, il mérite pas la course qu'il fait, quoi. Il va se retrouver derrière. Derrière, il voit rien. En plus, c'est ça le truc, quoi. Il est deuxième, il a qu'une voiture devant lui. Derrière, il a les projections de tout le peloton. Donc, c'est des projections dans la voiture. Le pilote, il voit rien. C'est un risque d'accident accru. Donc, t'essayes de limiter ce risque-là. Donc, tu joues à l'extrême limite.
C'est vrai. Bon, continuons.
Ouais.
C'est tout pour la course.
Le début, voilà.
Non, au début, il y a quand même quelque chose qui est assez... on va juste faire une petite parenthèse sur Kimi.
Ouais.
Kimi qui part devant Hamilton et qui va se faire doubler 3 fois par Lewis Hamilton. Une fois au 8e tour, dès que la safety car est sortie, en fait. Kimi qui va se faire en plus déplacer par Buemi au 11e tour. Hamilton qui va se louper, ce qui va lui donner une deuxième occasion de doubler Kimi au 10e tour. Et puis, au 15e tour, Lewis va repasser encore une fois Kimi.
Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus sur cette Ferrari?
Non, c'est pas sur Ferrari que je veux parler. Parce que, entre autres, parmi les pilotes qui doublent Kimi, il y a aussi Felipe Massa. Felipe Massa qui part 13e.
Non, et, c'est une stratégie d'écurie, là, il l'a laissé passer.
Ouais, non, mais. Ouais, il l'a laissé passer. Enfin, quand même, il était à la masse en course, moi. Ouais. Je rejoins.
Alors, c'est vrai qu'au contraire, Massa, avant qu'il ait. Qu'il abandonne, il était très très bon.
Il fait une super course. Enfin, voilà, c'est. Par rapport à ce qu'on peut penser de Massa sur la pluie, il fait une super course.
Autant Kimi n'a pas fait une course comme celle qu'il a pu faire à Spa l'an dernier où il nous avait ébloui, autant Massa nous a fait oublier le Grand Prix d'Angleterre de l'an dernier où il avait enchaîné le taquet.
Voilà, de n'importe quoi. Ouais, c'était juste pour ça alimente encore notre moulin.
Virez-le.
Hein?
Virez-le, je dis.
T'es cash, quoi, direct, comme ça.
Sincèrement, là, je le supporte plus, quoi. J'ai l'impression qu'il ne se bat pas sur la piste, ça m'énerve, mais tu peux pas savoir à quel point, quoi.
C'est pareil.
Pendant
la course, faudrait que je m'enregistre pendant la course, mais.
Quand tu sais le talent qu'il a, ce mec, et comme il nous a ébloui sur certaines courses, alors qu'il était pas en rouge en plus, alors qu'il était. Mais en 2003, il a fait des super courses, en 2005 aussi, et ouh, ça m'énerve.
Et le pire, c'est qu'il dit qu'il est bien, il aime bien ce qu'il fait, il a envie de continuer, que tout est super. Ouais.
Mais attends,
là, pour le coup, je préférais quand il fermait sa gueule et qu'il roulait vite.
Ouais, voilà.
Il sent le sapin, c'est pour ça qu'il dit ça. Hein.
On va passer au tour 18. Vous avez vu, là on va super vite sur la course.
Ouais.
On a fait 3 heures sur les qualifs, mais sur la course, on va super
vite. Que s'est-il passé au tour 18?
Au tour 18, on a eu le moment où il y a eu une formidable source d'inspiration pour Enzo.
Ah oui!
C'est ce qu'on a eu.
Ah oui! Cette magnifique tentative de reproduction entre deux Formule 1.
Voilà. C'est BMW, effectivement, qui s'est dit que, quitte à reproduire autant tenter la version sexuée du... Comme les chevaux. Non, mais sérieux, ça, c'est...
Moi, ça me rappelle Schumacher qui avait escaladé la Ferrari de Barrichello en Australie il y a quelques années.
S'en est suivi un autre accident, juste derrière. Hein, Trulli donc, fait son petit tour avec... l'aileron en moins, une partie de l'espèce de gros aileron de requin là en moins.
Ah oui.
C'est pas grave, hein. On passe devant les stands, mais on continue.
Oui. Non, il est pas passé devant les stands quand même.
Parce que le circuit est long. Hein.
Il est passé devant les stands. Ça se passe.
Il n'aurait pas fait plus d'un tour.
Ça se passe à l'entrée des stands d'accident.
Oui, mais
ça
après.
Se juste après. Non, ça se passe dans le virage à l'entrée des stands. Ils sont en train de freiner. Il est en train de freiner pour tourner dans le virage et comment ça s'appelle? Kubica, le heurte. Ils sont quoi? Ils sont à 10 mètres de l'entrée des stands.
Oui, mais parce qu'il a pas pu rentrer.
Oui, moi c'est bon. Il va se tanker dans le bac à sable. On a puni Red Bull de 50 000 euros. Faut donner pareil à Toyota.
Tout à fait.
Et donc,
il y a des drapeaux noirs pour ça. Hein.
Bah ouais. Mais pourquoi la FIA n'agit pas là tout d'un coup?
On va comprendre.
Et donc, derrière Trulli, le leader se retrouve derrière Trulli et fait un écart. Sauf que juste derrière lui, il y a Buemi qui heurte le pneu arrière droit de Vettel. Sans gros dégâts pour les deux pilotes. Hein, Buemi s'en sort plutôt bien. La preuve que, malgré ce qu'on peut penser, l'aileron de la Red Bull est plutôt efficace.
Oui.
Ouais.
Il est quand même affreux, cet aileron. Hein. Faut le voir comment il bouge, hein, c'est terrible. Et là, donc, je disais tout à l'heure, la grande classe de Monsieur Vettel, qui quand même quasiment s'excuse d'avoir gêné Buemi, alors que ça aurait été si facile de s'en prendre au petit jeune.
Peut-être aussi qu'il voulait pas avoir sur le dos les commissaires, après ce qui s'est passé en Australie.
T'imagines s'il avait menti?
Oh non, gardons-en pour la semaine prochaine. Donc au tour 21, c'est l'abandon de Massa.
Ouais.
Qui était passé au profit d'une voiture très lourde. Ils avaient je crois 28 tours d'essence.
Sincèrement, j'ai cru qu'il était tombé en panne d'essence.
Oui, c'est vrai que sur le coup
Ouais, non, on entendait le moteur tourner en fait.
Moi, je me demandais même s'ils avaient pas fait une Letton House sur ce coup-là.
Pour qu'on voit la Ferrari, parce que ça arrive depuis le début de l'année.
En Chine, mais... les Chinois, il y a plein de millionnaires chinois maintenant, ils peuvent acheter des Ferrari. Ça va être assez hallucinant quand on va voir les infos de temps de diffusion des différentes voitures.
À la fin de l'année, ouais, ça va être beau. Ouais. Hein.
Je pense que, du moins là, je ne sais pas si on peut trouver les chiffres en cours de saison, mais ça doit être assez révélateur quand même.
Voilà, là c'est Braun qui a le maximum.
Oh oui, là, sans doute.
Sans doute. Juste pour l'anecdote, parce que je cherchais quand même quelque chose, vous allez sur StatF1 et vous cherchez Australie 2002.
Ouais.
Et vous verrez la Ralph sur Rubens qui ressemblait étrangement à la Kubica sur Trulli.
Ah ouais,
c'est plus de la reproduction, c'est l'envol de la 380.
C'est un peu ça.
Mais c'est pas cet accident. Bah oui, c'est cette édition là où il y avait eu un mort, je crois, non?
Oui,
pas sur cet accident là mais un peu plus tard, je crois qu'il y avait une
c'est Villeneuve qui est sorti et qui est qui est rentré dans un trou dans le grillage et qui a tué un commissaire.
Voilà. Et donc bon bah pour la fin de la course, ça a été une succession de tête à queue, d'erreurs de la part de Bourdais, de la part d'Alonso, de Hamilton, qui a fait beaucoup d'erreurs sur la fin. Hamilton,
je voudrais parler quand même de Sutil. Lui aussi, il a fait une très bonne course et malheureusement il a pas de bol. À chaque fois qu'il fait une bonne course sur la pluie, il explose sa bagnole. Cette fois-ci Raikkonen n'y était pour rien.
Oui, mais c'est encore le champion du monde en titre.
C'est vrai,
il est encore en train de défendre sa place devant le champion du monde en titre.
On peut pas dire que l'an dernier à Monaco il défendait sa place, c'était sous drapeau jaune, hein. C'était sous safety car.
Oui, non, mais voilà, mais il est devant ouais, à la régulière, il est devant Raikkonen à ce moment-là.
Et je voulais aussi dire sur la fin de la course, c'est au 40e tour, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu.
Le dépassement de Weber sur Button.
De Vettel.
Je pensais à Weber qui a fait l'extérieur, il me semble, à Vettel.
Je pensais à celui de Vettel sur Button, pas tellement sur la tactique. Mais c'est dans l'idée, c'est que donc on est au 40e tour, donc Button est premier, Vettel est juste derrière, et Vettel il sait sans doute que Button il rentre dans les stands deux tours après, donc il aurait pu juste attendre, et non, il choisit le panache, de le doubler à la régulière.
C'est vrai.
Et ça j'ai beaucoup aimé.
Moi aussi, j'ai apprécié le geste.
Moi je m'en rappelle même plus.
En soi, c'est pas un déplacement extraordinaire hein, dans le type. C'est juste dans l'idée, quoi. Il aurait pu juste attendre que Button il rentre dans les stands, puis c'est bon, ça aurait rien changé. Hein. Sous la pluie, faire un dépassement et tout ça, voilà. Ça... On a beaucoup parlé de Vettel. Je rajoute une couche.
Ah là, c'est une émission. On dédie cette émission à Vettel. Vettel, tu as déjà deux nouveaux fans acquis et peut-être Shinji en plus.
Mais oui. Mais quand qui lui partira?
Ah, une info!
Ah, l'an prochain!
Ah non, mais nous, Kimi, il est même pas parti, qu'il a déjà perdu sa place.
Mais il va nous faire mentir dimanche.
J'espère. Même si j'y crois pas, mais j'espère.
J'avais annoncé quand même qu'il allait gagner. N'empêche que je.
Ah oui, c'est vrai!
Hein, j'ai fini premier de notre concours de pronostic, donc voilà.
Oui, c'est vrai. C'était je sais juste, pas comment t'as fait.
Moi non plus. Il a dû prendre un vieux prono.
Donc oui, cette fin de course, elle est marquée par deux luttes principalement. Une lutte pour la 8e place qui a été plutôt intéressante entre Heidfeld, Glock et Buemi. Buemi qui a d'ailleurs pas mal tenu la trajet haute à Alonso.
5 tours.
Moi, j'ai toujours dit, moi, la F1, c'est, enfin, le sport auto en général, c'est un sport de dépassement, d'accord. Mais il ne faut pas non plus ignorer que souvent, les trucs qui nous font le plus plaisir dans une course, c'est un pilote qui résiste à un autre. On se souvient des deux dernières courses à Imola où une année, c'est Alonso qui tient Schumacher pendant 20 tours derrière lui. Et l'année d'après, c'est Schumacher qui fait le même coup à Alonso. Et là, voir Buemi retenir Alonso comme ça, alors que Buemi, il a que 3 courses, pareil, c'est l'un des messieurs de la course.
C'est vrai.
Et puis l'autre bataille, bah, c'est la fameuse bataille entre Weber et Button, qui s'est soldée un petit peu en autre boudin par une sortie de Button. Mais bon, je pense que Weber aurait pris l'avantage quoi qu'il arrive. Et ça relativise aussi la performance des Browns. Hein. Il n'y a pas à s'inquiéter, les Browns, elles étaient dans le coup. Hein.
Oui.
C'est juste que les Red Bull, elles étaient au-dessus du lot.
La preuve, Barrichello finit quand même quatrième.
Ouais, oui. C'est dire.
C'est le plus mauvais résultat de Brown.
Ouais. C'est terrible de dire ça. Hein. Et c'est même pas le meilleur de Ferrari.
Ah la vache.
Ah si, si, oh, si, c'est vrai. Non, je dis une connerie. Parce qu'en course, à un moment, ils ont été troisième.
Au niveau résultat brut.
Oui, je suis d'accord. Mais même si tu prends pas le résultat brut, on a à peine fait mieux.
Merci de bien. Mais attends, parce que je crois en plus que chez Ferrari, on n'a jamais été mieux que dixième au final.
Cette année ?
Oh, ouais. Oui.
Bah, de toute façon, c'est au-delà de lui déjà, c'est sûr.
Et la dernière course, Massa finit dixième aussi. Non, il finit neuvième.
Ouais, ça doit être ça.
Donc on n'a jamais fait mieux que neuvième.
Alors voilà. Il paraît qu'on a fait pire en 81.
Alors, on va y revenir.
Ah, ouais. D'accord.
Voilà. Juste avant les chiffres, justement.
C'était normalement, après Bahreïn, on pourra dire si c'est vraiment la pire loose day de l'histoire de Ferrari.
Juste avant, justement, les chiffres de Shinji, on va tout de suite s'occuper du sondage pour le blog.
Ouais.
On va parler, je pensais cette semaine retenir le fait marquant de la course.
Non, c'était le pilote de la course.
Oui,
en Malaisie, pardon.
Oui, en Malaisie, le sondage c'était le pilote de la course. Alors, sur mon blog, il y a deux résultats du coup.
Ouais.
On va retenir celui de mon blog parce que.
Ah, moi j'ai voté au moins 10 fois sur les deux, alors.
Ah, c'est pas possible.
Alors attention, sur le blog du SAV qui sera désormais le seul et unique blog du SAV, ouais. C'est 100% pour Alonso.
Ouais.
Moi j'ai voté, je pense que Shinji a voté, je pense qu'Enzo a voté, bienvenue au quatrième. Et donc sur la Dartosphère, c'est Glock qui l'emporte avec 56% des 9 suffrages. Et deuxième ex aequo, Alonso et Weber. J'avoue que Glock, je ne comprends pas.
Glock en Malaisie ?
Ouais.
C'est moi qui avais proposé Glock ouais. En Malaisie.
Et ben, je pige pas, je suis désolé.
Eh non, mais attends, si
par rapport à Alonso et Weber, je pige pas.
Non,
mais
non,
Glock,
attends.
Il a fait une sacrée course.
Bon. Attends, si tu ramènes tout ça, ça veut dire qu'avec 56% des 9 votants, il a 5 votes, Alonso 2 et Weber 2. Mais sur l'autre blog, Alonso en a 4, donc ça en fait un total de 6. Donc c'est Alonso
c'est
qui gagne.
5.
Oui, mais voilà. Il y a des votes qui se répètent.
Voilà.
Donc pour le moment, on a Enzo 1, Shinji 1 et Yannick 0. Ah, j'ai m'en rappelé. Si on retient le fait marquant de la course cette semaine, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Alonso qui repasse par les stands avant le lancement de la course.
Alonso qui passe au stand, ouais. Shinji.
Sa bonne sieste.
L'accident subtil. Et ouais.
Vous avez remarqué, n'empêche, il a laissé son museau dans le mur de pneus.
Ah bon ?
Oui.
En plus, ils ont été vachement noirs tirés à la voiture.
C'était marrant.
Elle a resté ouais. Deux tours. Tu voyais les voitures rouler à fond, freiner à l'épingle, et tu voyais la Force India qui était juste au bord, là, bien garée.
Voilà. Pensez-y, hein, sans cet accident, Force India serait devant Ferrari.
Ouais.
Mais je crois qu'ils le sont de toute manière.
Ah, c'est pas impossible.
Et c'est dégueulasse. T'es dégueulasse, Enzo. T'as pris un truc qui va gagner, c'est pas possible.
Qu'est-ce qu'il y a ?
T'as pris le truc d'Alonso, ça va gagner. Tout le monde a voté pour le truc d'Alonso. Et ben toi, moi, le fait marquant de la course, je dirais la touchette entre Buemi et Et Vettel, pour les raisons que j'ai dit, c'est parce que voilà, Vettel a reconnu, a entre guillemets assumé la responsabilité à la fin de la course, et que de la part d'un mec qu'on annonce comme le futur Schumacher, qui a deux victoires, qui impressionne tout le monde, je trouve ça grand monsieur. Et c'est un monsieur qui n'oublie pas qu'il est aussi, il a aussi été jeune pilote. Donc voilà, juste pour ça. Et même si je perds, je m'en fous.
On parle bien de Vettel.
Ouais, ouais, de Vettel.
Un pilote, enfin quelqu'un qui n'a pas oublié qu'il était un jeune pilote.
Non mais qui a pas oublié, non mais qui a pas oublié ce que c'était. Maintenant, il joue aux avant-postes et il va se.
Ouais. Non non mais oui j'ai compris.
Maintenant, il a pas oublié que lui aussi avait fait des courses derrière et que il avait fait des boulettes dans les mêmes circonstances. Par exemple, au Japon en 2007, il fait une boulette un peu similaire et voilà donc.
Non mais j'ai. C'est juste drôle de parler d'un vieux Briscard de 21 ans.
Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il fait...
je me sens vieillir, là.
Et moi donc? Pourtant, j'ai que 4 ans de plus. Donc voilà, si vous avez bien compris, il faut voter pour moi. Il faut que je gagne. Là, il y a 1-1-0, il faut que je gagne.
Allez, on enchaîne.
On passe à tes chiffres, Gigi?
Ok. Alors, 1... Première pole, première victoire. Pole. C'est la deuxième pole et la deuxième victoire pour Vettel. Renault, en tant que motoriste, compte 155 poles et 116 victoires. C'est la première victoire d'une équipe cliente du constructeur français depuis Williams en 97. A noter que si Vettel n'avait pas gagné à Monza l'an dernier, sa victoire de Shanghai lui aurait quand même permis de devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire. Voilà. Alors, 5... On en a parlé, hein, donc Vettel est le cinquième pilote à offrir une première victoire à plus d'une équipe. Donc on a cité la liste. Alors, ouais. Tu avais un chiffre, Yannick.
Ouais, moi, j'avais le chiffre 6. C'est le nombre de vainqueurs différents en 6 éditions du Grand Prix de Shanghai. Donc, il n'y a jamais un seul pilote qui s'est imposé deux fois. On a Rubens Barrichello en 2004 qui l'a remporté. Ensuite, on a Alonso en 2005, Schumi en 2006, Kimi en 2007, Lewis... en 2008, et Vettel, donc cette année.
Ensuite, 16. Aucun pilote Ferrari ou McLaren n'est monté sur le podium lors des trois dernières courses. Une telle situation n'était plus arrivée depuis 16 ans, entre les Grands Prix du Canada et de Grande-Bretagne en 93. T'avais pas des chiffres ou t'avais pas regardé sur non. Les pires démarrages du Ferrari?
Alors oui, mais alors juste avant, une petite remarque sur un petit peu drôle sur le chiffre 16 là, que tu viens de nous donner. Indirectement, McLaren, ils ont quand même eu le droit au podium pendant 4 jours.
Oui, c'est vrai.
Suite au déclassement de Trulli pour cause de mensonge de Lewis Hamilton, ils ont quand même été 3e, même si la place leur a été retirée. Donc c'est pour un peu conforter tous les fans de McLaren qui veulent se sentir supérieurs à Ferrari. Vous pouvez. oui, sur les chiffres des départs de Ferrari, tu disais tout à l'heure, Enzo, que c'était le plus mauvais départ depuis 81. Alors, j'ai fait des petites recherches. Donc, c'est effectivement le plus mauvais départ depuis 81, puisqu'en 81, que je regarde mon brouillon, il y avait eu 3 défaites. Enfin, il y a eu
0 points.
Voilà, ouais. 3 roues de bicyclette lors des 3 premiers Grands Prix. Et que ils avaient marqué, je crois, ces 3 points ou 4 points lors du 4e Grand Prix.
2 points.
Dans la même lignée, on avait aussi, dans les départs à 0 points, Williams en 79, qui avait 0 points après 3 courses.
Oh, et ils ont Williams, fini... ils nous ont refait ça dernièrement aussi.
Mais ils ont fini deuxième. En fait, moi, ce que j'avais cherché, c'était aussi par rapport... Il y a eu des déclarations de Kimi Raikkonen et de Dominic Ali qui commencent à songer à abandonner la saison. On en a un peu parlé. Et donc, justement, je voulais savoir, est-ce que c'est déjà arrivé une équipe... À l'époque, c'était encore 2 courses au résultat vierge, mais là, c'est 3. Est-ce que c'était déjà arrivé qu'une équipe remporte le championnat? C'est arrivé une fois, en 82. En 82, c'est Ferrari qui remporte le championnat après avoir marqué seulement 1 point en 3 courses lors des 3 premières courses. Donc, autant dire, là, c'est quasiment mission impossible pour Ferrari.
Le plus petit, à part cette année-là, ça doit être 7 points. Le plus mauvais départ d'un champion du monde.
Ouais.
Après 3 courses.
On avait aussi, j'avais noté quoi d'autre? J'en ai noté pas mal, c'est un peu dans tout le désordre, je suis désolé, j'ai pas noté. On avait en 70, Ferrari avait 0 points après 3 courses, et ils avaient fini deuxième du championnat. Mais il faut signaler qu'à cette époque, seuls les 12 meilleurs résultats comptaient.
Ouais.
Donc, je pense que dans les résultats, les trois premiers Grands Prix étaient passés à la trappe. Et puis, bah, pour la première édition
donc, du... Donc, Benicali, si tu nous entends, prépare 2010.
Prépare ta valise, surtout.
Sachant que quasiment à chaque fois, ils réussissent quand même à marquer des points au quatrième Grand Prix.
Oui, voilà, c'est-à-dire que si à Bahreïn, il y a zéro point, comme ça peut être possible, ce sera...
Ce qui est, ouais.
Officiellement, depuis la création du championnat du constructeur, des constructeurs en 58, ça sera la première fois que Ferrari ne marque pas de points lors des quatre premières courses. Donc, ça sera officiellement le plus mauvais départ.
Arrêtez de parler de malheur.
Et, à signaler aussi qu'en 58, donc, année de création de la coupe, ce qui s'appelait à l'époque la coupe des constructeurs, en 58, Van Vol avait inscrit 0 point après 2 courses et ils avaient fini champion du monde.
Pour Van Vol, rappelons quand même qu'on prenait que les 6 meilleurs résultats sur 11 courses.
Voilà.
Donc on en enlevait 5. Hein.
C'est exactement le même cas que Williams. Parfait. Et donc voilà, ça fait 28 ans que Ferrari n'a pas fait un aussi mauvais départ de saison. Là pour le moment, c'est le cinquième, enfin c'est un groupe, hein. Il y a trois années où on a fait des mauvais départs comme ça. Je crois que c'est 80, 81, 70 et 69 de mémoire. C'est les quatre années où Ferrari a commencé par trois défaites.
Bon, question à 100 balles. Combien de semaines il se passera avant que Luca Di Montezemolo, pardon,
ouais,
rappelle Jean Todt?
Ah, rappeler Jean Todt, je sais pas.
Je sais pas. Moi, personnellement...
La tête de Dominique Ali, je compterai en jour.
Non, moi...
Ça dépend, dimanche, lundi peut-être.
Non, moi, je pense que le problème chez Ferrari, c'est que Dominique Ali, il est l'héritier de la génération Todt, donc il a les mêmes méthodes, etc. Sauf que c'est un peu...
Il a dû perdre la notice, hein.
C'est un peu la comparaison, je vais faire la comparaison au football avec l'équipe de France du Mondial 98. C'est l'inverse. En football, le Mondial 98, on a eu beaucoup de mal à se défaire des anciens et à créer une nouvelle génération. Et là, chez Ferrari, on a une nouvelle génération incarnée par Dominique Ali, par Rod Smedley et compagnie, qui sont là depuis pas mal d'années, mais qui sont à la tête de l'écurie, c'est la nouvelle génération. Et ils ne veulent pas de l'influence des nouveaux. C'est pour ça que Todt, il a finalement pas fait long feu. Et c'est en partie pour ça que c'est Schumacher qui a tout pris dans la figure après le Grand Prix de Malaisie. Schumacher, ça fait 6 mois que Dominique Ali a dit, laisse entendre qu'il n'y aura pas de renouvellement de contrat chez Ferrari pour Schumacher. Donc voilà, c'est le truc, c'est que on a une écurie qui, entre guillemets, dont les dirigeants ne veulent pas de l'héritage des années Todt. Ne veulent pas des hommes comme Schumacher. Ils auraient très bien pu ramener Brawn, parce que Brawn était ouvert au fait de revenir. Et donc, je pense que c'est davantage ça le problème que Todt. Je pense que la génération, elle est bonne, mais elle ne veut pas faire du nouveau en s'appuyant sur ce qu'ils ont fait par le passé. Ils veulent montrer leur valeur à eux-mêmes, et pour le moment, c'est pas brillant.
Mais ils ont tout faux.
Moi, je vous dis, ce sera... On va faire venir Vettel et Newey. Ça serait une belle fin de carrière quand même pour Newey de finir chez Ferrari.
Ouais, pourquoi pas.
Et après, ouais. Williams, c'est McLaren. Puis comme il aurait été champion du monde avec Red Bull, ça fera quatrième occasion.
Et pour que la boucle soit bouclée, Newey, il a travaillé chez Leighton House.
Leighton House.
Bon, j'arrête avec Leighton House.
Ouais. C'est quand même, je découvre que c'était une écurie de Formule 1.
Non.
Et donc, je crois que chez Nick, il te restait un dernier chiffre.
Alors, bon, il y avait le 28, mais tu l'as évoqué, hein, c'est les 28 ans
depuis 81.
Du départ. Sinon, il faut remonter à 96 pour retrouver une série de 3 Grands Prix sans points pour Ferrari, entre le Canada et la Grande-Bretagne. Donc, même là, ça date. Hein. Et donc, enfin, le chiffre.
Ah, le chiffre qui tue.
Le chiffre qui n'a rien à voir, ou presque.
Et attention, celui-là, il est énorme.
Ouais. J'ai pensé à Enzo, parce que j'avais remarqué qu'Enzo, il avait été très touché par l'histoire des kangourous. Et donc ce chiffre, c'est le chiffre 14. Le panda passe près de 14 heures par jour à mastiquer du bambou. Cela s'explique
J'ai eu peur quand t'as commencé à marre.
C'est drôle, hein, tu remplaces le M par une autre lettre et ça n'a plus du tout le même sens. Cela s'explique. C'était digérer la cellulose de cette plante. Il n'arrive qu'à en digérer 17%. C'est très con, un panda, ça bouffe un truc qu'il ne digère pas. Il mange jusqu'à 20 kilos de bambou par jour. Donc, si vous devez acheter un animal à votre gosse parce que vous avez parié avec lui que, oh non, jamais Red Bull ne gagnerait un jour une course en F1, prenez plutôt un hamster. Ah, t'es nul.
J'avais un hamster avant.
Moi, j'avais un panda, je confirme.
Bon, pour juste pour ta culture quand même, Yannick. Hein,
je passe pour l'abruti en forme. Non.
L'Eton House que tu ne connaissais pas, était en fait l'Eton House, c'est un sponsor qui a pris le nom d'une écurie à un moment, mais à l'origine c'est l'écurie March, ouais, créée par un certain Max Mosley. Voilà.
On passe vite fait au classement du championnat du monde.
Ah ouais, pitié.
Donc, Jenson Button est toujours en tête avec 21 points. Barrichello deuxième avec 15 points. Vettel se glisse d'un coup comme ça. Il rentre dans le classement. Meilleure entrée dans le top 10 de cette semaine. Il est troisième ex aequo avec Glock avec 10 points. Mais comme c'est une victoire, il est troisième. Weber est cinquième avec 9 points et demi. Il est quand même qu'à un demi point de Vettel. C'est pas mal pour un mec dont on disait qu'il allait se faire écraser par Vettel. Même si, attention, il reste beaucoup de choses à voir cette saison. Ouais. Trulli est sixième avec 8 points et demi. Et là, on a le gros paquet. Heidfeld, Alonso, Kovalainen, Hamilton sont ex aequo avec 4 points.
Ils sont 4 à 4.
Rosberg est 11e avec 3 points et demi. Buemi a 3 points. Et Bourdais a 1 point. Buemi, quand même, s'inscrit dans les bons départs, dans les bons débuts de carrière. À noter que, bien évidemment, il n'y a aucun pilote Ferrari, ni aucun pilote Force India, ni Piquet.
Je voudrais quand même...
On est en belle compagnie chez Ferrari. Hein.
Ouais, je voudrais quand même relativiser la mauvaise performance des Ferrari en ces débuts de saison. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas marqué de points pendant 3 Grands Prix. Ils n'ont pas marqué de points pendant 2 Grands Prix et demi.
Ouais.
Parce que la Malaisie est une demi-défaite. Je sais, ça fait léger comme consolation.
Non mais attends, c'est qu'il y a pire par rapport au classement constructeur. Donc, classement constructeur, Brown conforte sa première place avec 36 points, puisqu'il marque plus de points que leur rivaux direct qui était Toyota. Red Bull, par contre, s'empare, lui, de la deuxième place avec 19 points et demi. Toyota tombe à la troisième place avec 18 points et demi. Et puis là, le creux est déjà fait avec le quatrième qui est McLaren-Mercedes, 8 points. BMW 5e avec 4 points. Execo avec Toro Rosso Ferrari et Red Bull. Et Renault. Pourquoi je dis Red Bull? C'est les mauvais souvenirs. Et donc, Williams Toyota, on va y revenir, est huitième avec 3,5 points. Deux équipes n'ont pas inscrit de points, Ferrari et Force India, mais le plus dramatique...
Force India et Ferrari.
Je ne sais pas si c'est ça.
Dans cet ordre-là, si.
Même au nombre de positions?
Je crois.
Hein, faudrait vérifier. J'avais cet espoir de me dire, au moins, on n'est pas dernier. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a quand même vu la seule équipe qui a été des deux, hein, qui a été vraiment en passe à deux doigts de marquer des points, c'est Force India avec Sutil.
Oui.
Donc on aurait pu se retrouver dernier avec 0 points pour Ferrari à la régulière. Là, pas d'ex aequo, rien, c'est 0 sec, alors tout le monde marque des points.
Oui.
Heureusement, Force India est là.
Ouais, super.
Pour info, sur le site officiel de la FIA, Ferrari est 9e quand même.
Ah, voilà, je te dis, c'est au niveau des places. On fait des 9e et des 10e places. Ils sont pas habitués chez Force India, ils font des 11e et des 12e places. Voilà, donc, nouvelles données dans le championnat. On a les gros qui commencent à se réveiller un peu. On a Brown qui commence peut-être aussi à jouer le championnat. On voit que Button n'attaque pas avec outrance et se contente d'une 3e place, ce que doit faire un candidat au championnat du monde. Et puis, on a une force qui se réveille, c'est celle de Red Bull. Ils étaient déjà présents aux deux premiers Grands Prix, mais là, sur ce Grand Prix-là, ça se concrétise enfin avec des gros points. On passe à notre rubrique préférée, les drive-thru of the race.
Ah. Yes.
Eh ben, je vais commencer.
Comment, tiens. Chacun son tour.
Moi, mon drive-thru, c'est pour Briatore. rien à voir avec l'affaire des ravitaillements.
Bande kilométrique.
Bande kilométrique.
Ah non, j'ai cru. Il non. avait, il a comparé, il a comparé Button à une borne kilométrique et Barrichello à, je sais pas quoi, un retraité.
Un retraité,
ou...
ouais.
Oui, bah alors c'est justement ça, c'est-à-dire que c'est à la fois un dry troupe contre Briator et en même temps un énorme bravo pour Button, parce que voilà, on a Briator qui a passé, qui passe son temps. De toute façon, c'est pas difficile, c'est Briator, il passe son temps à rejeter la faute sur les autres. Il est incapable d'assumer le fait que, bah voilà, Renault pour sa deuxième collaboration avec Alonso a encore une fois raté sa voiture et voilà. Plutôt que lui de dépenser son énergie à essayer de résoudre la situation, il préfère descendre les autres, il préfère accuser Brown, critiquer, voilà, dire que c'est pas bien pour la F1 de voir Button se bagarrer avec Barrichello et Glock et Trulli. Il a dit que voilà, ça intéressait personne. Faut peut-être qu'il se dirige du côté des fans et qu'il demande aux fans ce qu'ils en pensent de ce début de saison. On est plutôt content de voir Button enfin servi avec une vraie voiture et qui peut montrer tout le potentiel de son talent. On est plutôt content de voir Toyota en tête, enfin, aux avant-postes et Trulli notamment, qui est un bon pilote et qui est sympathique comme tout, etc. Barrichello, c'est aussi, c'est sympa parce que voilà, c'est un peu le retour du vieux qu'on disait qu'il allait dégager. Et qu'on le veuille ou non, ça fait une belle histoire. Et la meilleure des réponses, elle vient de Button, qui a rappelé, qui a demandé à Briator de se rappeler qu'il avait essayé de l'embaucher au cours de la saison, hein, pour remplacer Piquet. Donc, c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, hein, faudrait que Monsieur Briator arrête de voir son nombril et qu'il passe un peu plus de temps à s'occuper de son équipe qu'à s'occuper des autres.
Bah, moi, je vais mettre BMW. Alors, on l'a évoqué un peu au début de l'émission, parce que on va pas non plus taper sur Ferrari toutes les semaines, c'est aussi un peu pour ça, hein. Je trouve ça extrêmement décevant. Alors c'est vrai qu'on a vu Kubica quatrième en Australie, c'est vrai qu'on se demande encore comment être fait de réussir un aussi bon résultat en Malaisie.
Kubica quatrième en Australie.
Bah, tu sais, avant qu'il ait son accident avec Vettel.
Il était troisième.
Troisième.
Enfin, peut-être deuxième.
Troisième. Là, ouais. Là, ils ont pas été brillants et. C'est quand même une équipe qui a lâché le développement de sa voiture au beau milieu de la saison l'an dernier. Ça a été la première voiture version 2009 qu'on ait vue. Puis rien, quoi. Et voilà, c'est assez décevant.
Mais je dirais que moi, entre guillemets, pour la santé de BMW, l'avantage, c'est qu'ils font pas pire que Ferrari, ils font pas pire que McLaren.
Non, voilà, ils font pas pire.
Ça fait léger comme consolation.
Bah ouais, mais en ce moment, on parle davantage.
Qui a commencé à être conçu 6 mois avant.
Du côté des déceptions, on parle davantage de Ferrari, de McLaren et de Renault. On analyse davantage ça. Et là, d'ailleurs, Shinji vient de le dire, c'est parce qu'il veut pas mettre Ferrari. J'avoue, moi, j'ai été tenté de dire Ferrari aussi. Je pense qu'Enzo a pas été loin non plus de dire Ferrari aussi. Et donc.
Non, du tout. Je suis super content de leur saison.
Donc voilà, on parle de BMW parce qu'on n'a pas envie de parler de Ferrari. Mais sinon, si on devait parler d'une première équipe, la première déception, c'est Ferrari.
Oui, Renault, c'est sûr.
McLaren.
Mais justement, je voulais en parler parce qu'on avait peu parlé.
Mais là où c'est plus grave,
McLaren, ils ont l'excuse d'avoir joué le titre jusqu'au bout.
Voilà, c'est là où l'excuse, c'est d'avoir joué le titre jusqu'au bout. Renault aussi, parce qu'ils ont joué pour garder leur pilote jusqu'au bout, ils ont essayé d'améliorer la voiture pour qu'il reste. Là, BMW a décidé d'arrêter le développement effectivement 6 courses avant la fin, au mépris total du pilote en plus. Hein.
Oui.
Et puis là, pareil, mépris total du pilote. Et donc toi Enzo, tu avais un drive-thru, donc t'avais la FIA, mais t'avais aussi un autre truc.
Bah, c'est pas vraiment un drive-thru, c'est plus une déception, c'est Williams, quoi. C'est la seule, elle fait partie des 3 écuries qui ont le double diffuseur. Aux essais libres, que ce soit en Australie ou en Malaisie, elles étaient quand même présentes en essais libres, mais elles ont pas concrétisé. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que quand toutes les autres vont se mettre au double diffuseur, etc., elles vont être complètement larguées parce que leur marge de progression est moindre. Voilà.
Moi, William, c'est avec Ferrari, c'est la deuxième déception de ce début de saison parce qu'ils font ils ont une bonne voiture, ils ont le diffuseur arrière, ils font des choses plutôt pas mal en essai et en course c'est la catastrophe quoi. Il y a rien de marqué là. Ils sont à 3,5 alors qu'ils sont du niveau, on va dire le niveau de Toyota. C'est voilà, c'est désespérant. Donc voilà, on passe à Bahreïn, des pronostics. Et là, on s'engage, je rappelle Monsieur Shinji.
Oh.
Bon, moi, je dis Button.
Je dis Trulli.
Ils vont encore nous dire Rosberg, tu vois.
Vettel. Sur le sec.
Ah ouais, ouais. Ça serait bien qu'il en gagne enfin une sur le sec.
Oui, parce que...
C'est le mec qui est basé. Bon, c'est bon, il gagne tout le temps sous la pluie, maintenant il faut qu'il gagne sous le sec.
Bah, en plus, ça barre, c'est mal barré, là, pour l'eau.
Ah bah, tu sais qu'il a, il a plu au Qatar il y a 3 semaines.
C'est vrai.
Ah, puis ça se trouve, il est bon sous les tempêtes de désert.
Ouais, enfin, s'il y a tempête...
Et là, c'est victoire de Ferrari. Alors là, je te dis, si c'est victoire de Ferrari...
Simple, s'il y a tempête, c'est comme la Malaisie il y a 2 semaines. Hein. Ils doivent s'arrêter.
Oh ben non, ils vont faire quelques tours. Voyons. Donc, c'est noté. Donc, moi, je mis sur Button et je vais sans doute gagner.
Sans doute, ouais.
Shinji sur Trulli et Enzo sur Vettel. Et on passe à notre concours top pas position.
On fait le tirage au sort du gagnant avant. Concours top position avec pas de participants.
Non, on a eu 3 réponses.
Dino, Cindy, Enzo.
3 réponses et 3 mauvaises réponses. Non, faut qu'on soit honnête. On peut pas mentir. Ça a été un four, cette première émission. On a eu aucune réponse.
Et encore un four, il y a de la lumière.
Non, c'est vrai que dans la première question, on n'a pas eu de réponse. Mais voilà, l'émission de Malaisie a pas été beaucoup téléchargée.
Ça s'améliore pourtant.
Hein. Ah ouais, arrête. Et chaque semaine, on gagne une demi-heure.
Ouais.
Dans le mauvais sens.
Et en plus, comme il y a eu des problèmes de liens de téléchargement, etc. Voilà, donc il y a personne qui a répondu. Ouais. Théoriquement, ces problèmes de liens de téléchargement seront résolus. Donc, on peut quand même, parce qu'on va quand même s'entêter dans ce jeu, hein, parce qu'on veut que ça marche.
Voilà. Déjà, on pourrait donner la réponse.
Oui, alors la question, c'était... c'était quoi la question? Que consomme Kimi à la fin de sa course en Malaisie? Et la réponse, c'était...
Alors, un Esquimau ou une glace.
Voilà.
Ou un Magnum.
Quelle marque?
Oh, c'était trop petit pour être un Magnum.
Ah, je sais pas. Et une canette de Coca.
Ouais. Ça sonne une canette de Coca.
Coca Light ou du zéro?
Coca Light. Non, Coca normal.
Ils sont très corporate chez Ferrari. Ils prennent le Coca qui est rouge.
Ouais. Alors que sur toutes les photos de la Malaisie, c'était ça le piège, on le voyait avec une canette de Red Bull.
Oui.
Sur toutes les photos que j'ai pu trouver, il avait une canette de Red Bull. Et pas une seule fois, il avait du Coca. Et donc, cette semaine, on renouvelle notre jeu Top Pop Position avec une nouvelle question présentée par Enzo.
Vous venez d'écouter le service après-vente de la F1 du Grand Prix de Chine. Participez maintenant au concours Top Proposition. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et gagnera un super cadeau que l'on n'a pas encore trouvé pour l'instant, mais comme on a prévu de faire des brocantes ce week-end après le Grand Prix, on trouvera bien quelque chose. La question est la suivante. Après Papa Milton et Papa Massa laissant passer Papa Button en Australie, quel papa de pilote a été sous le feu des projecteurs cette semaine? Postez votre réponse sur le blog SAV de la F1.
Attention, hein, vous mettez ça dans la rubrique contact, hein, pas dans les commentaires. Mais j'aime bien, c'est le concours top proposition. Et il a un accent normand, Enzo. Bienvenue au club, frangin. Il vit des ponts comme nous et...
Et au sujet du blog, on peut aussi dire qu'il y a aussi un groupe Facebook. Ouais, parce que Yannick, tu vois, quand il se met à faire un truc, il fait les choses en grand. C'est qu'il y a trois personnes qui écoutent, mais c'est pas grave, il fait la totale. Moi, je te dis, dans 2 semaines, on inaugure la boutique SAV de la F1. Donc, sur Facebook, c'est le groupe SAV de la F1, hein. SAV en majuscule.
Voilà. Mais bon, ça, c'est surtout pour nous faire connaître.
Ouais.
Et la preuve, ça marche, puisqu'on a aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, pendant que vous écoutez cette émission,
membres.
On a 6700 auditeurs, dont 6698 personnes qui sont proches de nous, qui ont été achetées par nous, et voilà.
Un grand merci à Sabrina qui adhère à tous nos délires.
Ah ouais, non mais alors là, la pauvre.
Et ouais. Je rappelle que le groupe Facebook Casque en Folie comprend 81 membres maintenant.
Oh, c'est bon, ça y est, ça suffit. On est des petits jeunes, nous, hein. On n'y peut rien. Mais en même temps, on fait des émissions de 2h30, quoi. C'est pareil, là, je suis crevé.
Si je joue mal demain, c'est de votre faute.
Oh, au pire, tu pourras jouer mieux. Bon, allez, c'est sur cette dernière note un peu cruelle qu'on vous abandonne et qu'on vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour le Grand Prix de Bahreïn, déjà.
Ouais.
Bon Grand Prix de Bahreïn. Et puis, bonne semaine et que vivez longtemps et prospère.
Oh.
Voilà. En revanche, ça sur tous les publics, même les fans de Star Trek.
Bye bye.
Salut à tous.
Ça prévente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.